Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC, on est ensemble jusqu'à 9h. Écoutez, c'était sur le perron de Matignon hier soir.
On a décidé de faire des aides mensualisées, ciblées, on refuse toute forme de logique de chèques généraux ou de baisse massive de taxes.
Sébastien Lecornu, vous l'aurez reconnu, a enfin annoncé des aides pour les Français qui souffrent le plus de la crise des carburants. 20 centimes par litre pour 3 millions de personnes. Les travailleurs modestes qui roulent plus de 30 km par jour. Alors, il faut gagner moins de 17 000 euros par an pour une personne seule. Est-ce que vous rentrez dans ces critères? Est-ce que ça va vous soulager? Ou est-ce que vous êtes juste au-dessus, et là, franchement, c'est la douche froide. Venez témoigner et réagir, on vous attend au 3216. Vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs continuent aussi à être soutenus. Pas d'aide spécifique pour les infirmiers notamment, et ils sont en colère. Leur représentant sera avec nous à 7h40. Et là encore, si vous êtes infirmier, appelez-nous au 3216. Ces aides ciblées sont-elles suffisantes? Je poserai aussi la question dans le face-à-face au deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Gérard Larcher, guerre en Iran également aussi, mais multiplication de candidatures à droite et au centre. Honnêtement, je compte presque ceux qui ne sont pas candidats, c'est plus simple. Gérard Larcher donc sera mon invité à 8h30 sur AMC et BFM TV. Il est 7h dans un instant de journal, mais d'abord la météo, Anthony. Ça se dégrade un peu à l'ouest.
Exactement, et ça veut dire qu'au nord et à l'est, on va conserver un temps très ensoleillé, un ciel tout bleu sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, la Franche-Comté. Ailleurs, de plus en plus de nuages, notamment de la Bretagne aux Charentes et du Massif central au sud-est, avec quelques petites averses, parfois orageuses, surtout cet après-midi. Nouveaux orages en soirée qui arriveront par les Pyrénées. Les températures, elles vont remonter sur la moitié nord. 20 degrés prévus à Paris et à Orléans cet après-midi. On partira de 15 à Cherbourg. C'est dans le sud-ouest qu'il fera le plus chaud, avec encore 26 degrés à Bordeaux et à Toulouse.
Il est 7h, c'est l'heure du journal de Clara Gabillet.
RMC, Apolline Matin.
Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le gouvernement ressort le chéquier face à la hausse des prix du carburant, des aides ciblées par secteur et pour les gros rouleurs. On va tout vous détailler. La tension redescend d'un cran au Moyen-Orient. Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Et puis Lens qualifié pour la finale de la Coupe de France de football après 28 ans d'attente. Victoire 4-1 hier soir contre Toulouse.
Un nouveau coup de pouce du gouvernement face à la hausse des prix du carburant.
Plusieurs aides détaillées hier donc par Sébastien Lecornu depuis le perron de Matignon. Les secteurs déjà aidés seront revalorisés. Les pêcheurs, les agriculteurs, les routiers seront bientôt soutenus aussi, le BTP et les taxis, mais donc aussi les gros rouleurs. 3 millions d'entre eux auront droit à une aide de 20 centimes par litre en moyenne. Ce sera sous condition de revenus et en fonction des kilomètres parcourus. Dispositif détaillé hier sur France 2 par Roland Lescure, le ministre de l'Économie.
Ça veut dire pour une personne seule, en dessous de 17 000 euros par an, vous serez éligible. Pour un couple avec deux enfants, c'est plutôt 50 000 euros par an.
Ce sont les 50% des foyers les moins aisés.
Les moins aisés, par catégorie. Couple avec enfants, couple sans enfants, mère célibataire, évidemment, on tient compte de tout ça. Ensuite, il faut utiliser sa voiture, soit pour aller travailler, et là, le niveau qu'on a fixé comme seuil, c'est au moins vers 30 km par jour pour aller travailler. Mmh. Ou à l'inverse, si vous utilisez votre véhicule pour travailler, on a parlé d'aide-soignante, d'infirmière, etc. Là, c'est 8000 km par an pour des activités professionnelles.
Et pour ça, il faudra déclarer ses kilomètres sur le site des impôts. Ce sera possible fin mai et ce sera rétroactif. Sébastien Krebs, chef du service politique d'RMC, en direct avec nous. Il y a donc de nouvelles aides, mais on voit bien que tout le monde n'y aura pas droit.
Oui, et le gouvernement assume de garder le pied sur le frein, même si c'est quand même un changement de braquet. Jusque-là, on ne parlait que d'être très ciblé sur des secteurs spécifiques. Cette fois, ça va quand même concerner 3 millions de personnes et sans se limiter à certaines professions. La solution, c'est du sur-mesure, continue de répéter le Premier ministre, qui refuse de distribuer un chèque général sans condition et encore plus de baisser les taxes comme le réclame le RN. Ça aurait un effet épouvantable sur les finances publiques, alerte Sébastien Lecornu, dans un contexte déjà très compliqué. Il va déjà falloir rogner au moins 6 milliards de dépenses dans le budget en cours. Et davantage encore si la guerre continue, d'où ce cadre assez strict, notamment en termes de revenus. La gauche demande déjà à élargir la cible pour toucher davantage de classes moyennes. et demande à aller piocher dans les super profits des pétroliers.
Sébastien Krebs, chef du service politique d'RMC. Les Français boudent un peu plus le livret A qui connaît son pire mois de mars depuis 2009. Ils ont retiré le mois dernier 490 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé, annonce la Caisse des dépôts. Son taux a été ramené en février à 1,5%. Donald Trump prolonge finalement le cessez-le-feu, lui qui menaçait hier de reprendre les bombardements sur l'Iran. Cessez-le-feu prolongé jusqu'à nouvel ordre, Lou Garnier. Le président américain laisse la porte entrouverte pour des pourparlers.
Oui, sur son réseau social, Donald Trump annonce prolonger la trêve pour laisser du temps à l'Iran, qui fait face, selon lui, à de graves divisions au sein de son gouvernement, de présenter une proposition. Mais il ne faut pas s'y tromper, selon le vice-amiral Michel Olagaray.
C'est Trump qui a reculé. C'est lui qui fixait les trêves avec les dates butoirs. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de butoir. Personne ne s'y trompe. Les Iraniens, encore moins que les autres, ils ont manifestement marqué un point.
D'autant plus que le président américain est pressé, selon lui.
Il se trouve que Trump est acculé par un agenda particulier. Au bout de 60 jours après le début d'une guerre, le président américain doit présenter ses buts, ses objectifs devant le Congrès. C'est très bientôt. La popularité de Trump est sévèrement érodée, y compris dans sa base MAGA. Il veut des victoires, il est pressé.
Donald Trump est pressé et espère asphyxier l'économie iranienne, déjà très affectée, selon le spécialiste, en maintenant le blocus des ports iraniens et avec comme objectif de ramener l'Iran autour de la table des négociations en vue d'un accord de paix.
Que s'est-il passé hier à Castres, dans le Tarn? Des coups de feu ont été tirés en plein après-midi sur le parking d'une clinique. Il y a un mort et deux blessés. Romain Houg, en direct pour RMC, une fusillade qui concerne des membres d'une même famille.
Oui, c'est le début d'après-midi quand deux cousins se retrouvent sur le parking de la clinique du Cidobre, relate le journal La Dépêche, pour régler un différend familial. Une histoire de voiture brûlée le week-end précédent dans un quartier de la ville. Une troisième personne, le frère de l'un d'entre eux, venu de Toulouse pour jouer les médiateurs et tenter d'apaiser la situation, qui va en fait dégénérer très rapidement. Des coups de feu sont tirés, les témoins parlent d'une scène de chaos. Le Toulousain de 44 ans, touché par deux balles, meurt de ses blessures dans la soirée. Un autre protagoniste est blessé par arme blanche, le troisième par un éclat de tir. Quatre individus âgés de 17 à 42 ans, dont le tireur, ont été placés en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été ouverte, ce qui pourrait vouloir dire que l'acte aurait été prémédité.
Explication de Romain Houg pour RMC. À Sarcelles, dans le Val d'Oise, trois policiers sortis de garde à vue. Ils sont soupçonnés de viol et de violence sur un homme gardé à vue pour détention de stupéfiants, des soupçons qui sont classés sans suite. Pour les trois fonctionnaires, l'enquête se poursuit. Il est 7h06, une qualification historique. Le RC Lens valide son ticket pour la finale de la Coupe de France. Victoire 4-1 des 100 heures contre Toulouse. Victoire sans trembler. Jean Baumel, cela faisait 28 ans qu'il l'attendait.
À la fin du match, le Stade Bollaert a explosé de joie et les supporters ont envahi la pelouse pour fêter la qualification en finale de la Coupe de France.
Oh, c'est magnifique, c'est un pur bonheur. Finale les amis, finale, truc magique.
C'est majestueux, mais Lens le mérite largement.
Un match de fou, du début à la fin. On a vu qu'ils ont poussé, qu'ils ont voulu nous donner la victoire.
Le capitaine lensois Adrien Thomasson savoure ce moment rare.
On avait à cœur de forcément de se qualifier, d'emmener tout le peuple lensois au Stade de France. Et en plus de ça, avec la manière, je pense que c'est chose faite. Et c'est magnifique, mais pour moi, ça sera seulement exceptionnel si on gagne la finale parce qu'on aura à cœur de gagner cette première Coupe de France pour le club.
La dernière finale des 100 et or date de 1998. S'ils avaient perdu contre le PSG à l'époque, cette année, ils veulent gagner le défenseur Mathieu Udol.
On sait qu'il reste une étape très importante. On a rempli notre mission. Nous, ce qui nous importe, c'est de ramener un trophée cette saison.
Le 22 mai, au Stade de France, Lens sera opposé à Strasbourg ou Nice, qui s'affrontent ce soir.
Et autre affiche ce soir, cette fois-ci en Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Nantes. C'est à 19h. Et puis en NBA, de l'inquiétude autour de Victor Wembanyama qui s'est écroulé sur le parquet cette nuit pendant son match contre Portland. Son visage a tapé contre le sol. Le basketteur français sorti sur commotion cérébrale. Il est sorti en marchant. Celui qui vient d'être sacré meilleur défenseur de la saison doit être réexaminé par les médecins dans 48 heures.
C'était le journal de Clara Gabillet. Il est 7h07 sur RMC. Évidemment, on continue à attendre vos réactions et vos appels sur ces aides ciblées sur les gros rouleurs. Mais notez-le, il y a aussi d'autres nuages noirs sur l'économie française. Les intentions d'embauche sont en net recul cette année, moins 6,5% selon France Travail. Bonjour Eric Ayer. Vous êtes économiste. Bonjour. Les perspectives pour les entreprises ne sont pas bonnes. C'est votre parti pris ce matin. Vous nous dites que la guerre au Moyen-Orient pourrait encore aggraver la situation sur le front de l'emploi. On en parle dans un instant. Vos réactions également et vos témoignages au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h11, très bon réveil à tous, enfin très bon réveil. Je vous avoue que les nouvelles ne sont pas forcément excellentes. Inquiétude sur le front de l'emploi, moins 6,5%. Les intentions d'embauche en 2026 sont en net recul et c'est France Travail qui le dit. Bonjour Eric Heyer. Vous êtes économiste. Bonjour. Pour l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et avec la crise au Moyen-Orient, ces perspectives déjà mauvaises d'embauche pour les entreprises vont empirer. Voilà votre parti pris ce matin. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises rechignent à embaucher ?
Alors, il y a deux éléments. Il faut voir d'abord l'élément un peu structurel, c'est-à-dire que même sans le conflit iranien, il y aurait eu des destructions d'emplois en 2026, comme il y en a eu en 2025. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, le marché du travail s'est très bien porté pendant la crise sanitaire et les années 2022-2023. Et donc, pourquoi ? Parce que, en gros, il y avait énormément d'aides de l'État, à la fois pour l'apprentissage, mais aussi pour les entreprises. Et donc, on a sauvé énormément d'entreprises qui auraient dû faire faillite normalement. C'est ce que Bercy appelle la zombification de l'économie. Et donc, on a sauvé de l'emploi en sauvant ces entreprises. Mais petit à petit, ça a creusé les déficits et les salariés également avaient un peu perdu en pouvoir d'achat. Et donc, petit à petit, les salariés réclament un rattrapage du pouvoir d'achat. Et puisque l'État est obligé de résorber son déficit, ben les aides s'arrêtent. Et donc, là, globalement, on était arrivé à un moment où la demande était relativement stagnante et les entreprises ont décidé de refaire de la productivité, c'est-à-dire globalement d'ajuster l'emploi à leur activité. Et donc, globalement, il y avait des destructions d'emplois qui étaient déjà à l'œuvre.
J'ai presque l'impression quand je vous écoute, et évidemment on va en venir à ce qui se surajoute à ça, qui est évidemment la guerre en Iran. Mais ça veut dire, quand vous dites la zombification, ça veut dire qu'en fait c'était des entreprises qui n'avaient pas un rapport au réel, parce qu'elles étaient artificiellement maintenues en vie en quelque sorte, ou qu'elles avaient reçu des prêts de l'État. Et là, se confrontant au réel, bah, elles sont obligées d'écrémer.
Oui, c'est ça. C'est les entreprises qui auraient dû faire. Vous voyez, en France, il y a à peu près 55 000 défaillances d'entreprises chaque année. Ça, c'est une année normale. Donc, une bonne année, généralement, vous descendez à 45 000. Et puis, les mauvaises années, vous montez jusqu'à 60, 65 000 défaillances. Pendant les années 2020, 21, 22, 23, c'était des années relativement mauvaises. On est descendu à 20 000, 22 000 défaillances d'entreprises. Donc, vous voyez que on a sauvé beaucoup d'entreprises qui auraient dû faire défaillance s'il n'y avait pas eu la crise. Bah, ces entreprises-là, quand on les sauve, on sauve également l'emploi. Mais petit à petit, lorsqu'il faut qu'elles remboursent les prêts garantis par l'État et lorsqu'elles ne sont plus aidées, malheureusement, elles font défaillance. Mais allez, globalement, on leur a laissé 3 ans de vie supplémentaire.
Donc c'est une forme de rattrapage. C'est une forme de rattrapage.
Exactement.
La question, évidemment.
C'est une forme de rattrapage.
J'ai deux questions en particulier. L'une, évidemment, sur le contexte géopolitique qui se surajoute donc à ce moment, en quelque sorte, du choc du réel. Et puis la question, évidemment, des chiffres du chômage. Le chômage d'abord, est-ce que ça veut dire concrètement que ça va se traduire dans les chiffres du chômage qui vont mécaniquement augmenter ?
Oui, mais là aussi, c'est une tendance depuis 2023. C'est-à-dire que depuis 2023, le chômage augmente, alors pas rapidement, mais il augmente régulièrement, puisque globalement, on avait réussi à baisser le chômage jusqu'à 7,1. Puis là, petit à petit, ça réaugmente. Et ça devrait continuer. Et on devrait atteindre, à la fin de l'année, 8,3% de chômage. Donc, on revient pas au niveau qui était le sien dans les années 2012-2013. Mais, allez, petit à petit, le chômage repart à la hausse.
Et dans cette situation déjà de fragilité, l'arrivée de la guerre, quel peut en être ensuite l'impact ?
Alors la guerre va va bien entendu aggraver la situation par deux conséquences. D'abord, la première, c'est direct, c'est-à-dire c'est une augmentation des prix de l'énergie. Donc, lorsque les prix de l'énergie augmentent, eh ben l'inflation revient. Et lorsque l'inflation revient, le pouvoir d'achat des ménages baisse. Et donc, les carnets de commandes, qui étaient déjà relativement faibles, ben, vont être encore un peu plus faibles. Et donc ça, ça va avoir une incidence sur la demande. Et le deuxième canal de transmission, c'est l'incertitude. Aujourd'hui, on est dans un monde très incertain et encore plus incertain vis-à-vis de ce qui peut se passer dans le détroit d'Ormuz. Et donc, cette incertitude va se traduire par des intentions d'embauche qui vont être un peu moins dynamiques. Et donc, là aussi, ça va aggraver la situation sur le marché du travail.
Merci pour ces mauvaises nouvelles, cher Eric. Et merci quand même de nous avoir aidé, évidemment, à les comprendre davantage. Vous êtes le directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Dans ce contexte, évidemment, comme vous le disiez, la question du prix des carburants et ces aides qui ont été annoncées hier soir, alors des aides très ciblées. Et puis, il faut rentrer dans la case, et notamment pour tous ceux qui travaillent et qui sont des gros rouleurs qui vont travailler en voiture. Il faut gagner moins de 17 000 euros par an. Lucie nous appelle. Bonjour Lucie. Vous êtes agent immobilier dans la région de Troyes, dans l'Aube. Vous rentrez dans les critères, vous, ou pas ?
Bonjour, non, pas du tout.
Pas du tout ?
Pas du tout, dans le sens où, voilà, je suis mariée, deux enfants, on travaille tous les deux et on rentre pas dans les critères. Alors, quand on entend les critères, 30 km pour être un gros rouleur, moi j'en fais 100 par jour pour aller travailler.
Donc, ouais. C'est dur ?
Bah forcément, c'est-à-dire que on se dit qu'on gagne pas trop mal notre vie et au final ça nous appauvrit de plus en plus et on paye nos impôts, etc. Et on se rend compte qu'on gagne de moins en moins et que notre train de vie reste peut-être au même niveau que des gens qui voilà.
Ce que vous voulez dire, et j'essaie de comprendre Lucie, c'est que vous vous dites en fait que vous gagnez trop pour être aidé, mais pas assez pour vous en sortir vraiment bien.
C'est ça.
Et ça, Mathieu, on sent que c'est vraiment la réaction depuis ce matin.
C'est ce qui revient le plus ce matin, ce sentiment d'être soit juste en dessous des seuils, par exemple, j'avais quelqu'un qui me parlait de 6500 km alors que c'est 8000 km par an, soit surtout d'être au-dessus des planchers, justement au niveau des revenus. Exactement le témoignage de Lucie, de gagner trop, je mets des guillemets à trop, pour pouvoir être aidé.
Lucie, vous avez calculé, ça vous revient à combien de plus là, vous allez mettre combien d'avantages dans vos pleins depuis le début de la guerre ?
C'est 20 euros c'est 20 euros toutes les semaines en plus, en gros.
Ça fait quand même beaucoup, effectivement. Hein. Et donc 20 euros.
C'est 4 pleins par mois minimum.
4 pleins par mois minimum. Donc effectivement, et si vous n'avez pas les aides, et vous ne les aurez pas en effet, malheureusement, j'ai pas la bonne nouvelle à vous annoncer là-dessus, Lucie. Vous êtes au-dessus des critères, visiblement. Merci en tout cas, Lucie, pour votre réaction. Comme Lucie, vous n'hésitez pas. Est-ce que ces aides sont à la hauteur de vos espérances ? Est-ce que vous estimez qu'elles manquent leur cible ? Le 32-16 vous est ouvert. Il est 7h19 et l'historien d'Apolline Matin est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'une des affaires les plus obscures de la 5e République pourrait être réouverte.
Oui, un ministre qui s'est officiellement suicidé dans 50 cm d'eau à la fin des années 70, sauf qu'un témoignage a relancé l'enquête.
L'affaire Boulin, vous y revenez dans un instant. Et puis Arnaud, demain, je viendrai pirater le face-à-face. Il est 7h19, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h20 sur RMC et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
L'une des affaires les plus mystérieuses et obscures de la 5e République, l'affaire Robert Boulin, du nom de ce ministre retrouvé mort dans une forêt il y a 47 ans. Et aujourd'hui, sa famille reprend espoir.
Oui, sa fille Fabienne n'a jamais cru à la version officielle du suicide. Elle est convaincue que son père a été assassiné. Alors la nouveauté, c'est que cette affaire devrait être transmise au pôle Cold Case. Le pôle Cold Case, c'est le pôle national des crimes non élucidé. Ça relance complètement l'affaire Boulin. Fabienne Boulin-Burjat l'a dit hier, c'est un grand espoir. Elle demande que la justice fasse son travail.
Qui était Robert Boulin ?
Alors Robert Boulin, c'était un ancien résistant qui va faire une bonne carrière politique dans les années 1970. C'est un proche du président Valéry Giscard d'Estaing. C'est même un de ses ministres. Un homme intègre, travailleur, un vrai serviteur de l'État. Sauf que tout va basculer le matin du 30 octobre 1979. On retrouve son corps dans un étang de la forêt de Rambouillet.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors d'après l'autopsie, ça ne fait aucun doute dans un premier temps. C'est un suicide. Boulin se serait noyé après avoir pris du Valium. Alors évidemment, cette explication n'est pas très convaincante quand on regarde de près. Voilà pourquoi, premièrement, le visage de la victime était tuméfié, donc c'est un peu comme si on lui avait tapé dessus. Deuxièmement, on retrouve effectivement du valium, mais dans son sang, pas dans son estomac, ce qui voudrait dire qu'il l'a pris vraiment très très peu de temps avant de mourir. Là encore, pas très crédible. Et alors, le plus louche, hein, c'est la profondeur de l'étang, 50 cm, un peu juste pour se noyer quand même.
Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu se suicider ?
Alors effectivement, Boulin était sous la pression médiatique depuis plusieurs semaines à cause d'une sorte d'arnaque immobilière un peu compliquée dans laquelle il se serait retrouvé, mais par erreur. Bon, alors effectivement, c'était pas très agréable. Mais sa carrière n'était pas en danger non plus. Hein.
Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait voulu le tuer, Alain ?
Alors voilà, ça c'est l'autre version. Parce qu'à la fin des années 1970, il y avait une guerre des droites entre Valéry Giscard d'Estaing d'un côté et un jeune loup de l'autre qui s'appelait Jacques Chirac et qui venait de fonder son propre parti politique. Ce parti, ça s'appelait le RPR. Et Boulin aurait justement été au courant de financements illicites de ce parti. Raison donc pour laquelle on aurait voulu l'éliminer. Alors je précise qu'à ce stade, tout ça n'est qu'une hypothèse qui n'a jamais été confirmée par la justice.
Et en 2022, nouveau coup de théâtre.
Et oui, plus de 40 ans après les faits, un témoin apparaît, hein, il a 75 ans, et il raconte avoir entendu des hommes parler de l'assassinat de Robert Boulin dans un club libertin. Il désigne même un individu comme l'assassin, alors sauf que cet individu serait mort en 1986. Ce témoignage est si crédible qu'on va tenter d'intimider ce nouveau témoin en allant jusqu'à tirer à coups de pistolet sur sa maison. Alors ce témoin est justement mort de mort naturelle il y a quelques semaines, hein, mais il a livré des secrets qui pourraient mettre les enquêteurs sur de nouvelles pistes. La famille de Boulin attend justement qu'on les exploite.
Incroyable histoire. Merci Arthur Chevalier, l'historien. Merci d'Apolline Matin. Il est 7h23, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Il arrive en courant, Arnaud Demanche. Mon invité tout à l'heure, ce sera le deuxième personnage de l'État, le président du Sénat, Gérard Larcher.
Oui, c'est pas n'importe qui, hein. C'est le grand sage de la droite, c'est le Bouddha des LR. Il arrive, tiens, voilà du Bouddha. Alors, je dis pas qu'il y a des passe-droits dans cette radio, mais d'habitude, Apolline, quand on reçoit un invité, en loge, il y a du café, deux, trois chouquettes. Là, en loge, il y a un civet de lièvre.
Ah, c'est vrai?
Dans un plat en argent. J'ai vu Mathieu Béliard amener des chariots en entrée, Achille Venaison et l'emploi en galantine. Parce que Mathieu, dès qu'il y a l'occasion de cuisiner des trucs dégueux, il est là. Les adhérents LR ont donc choisi Bruno Retailleau comme candidat. Un plébiscite, Apolline. 73%. 73%. Des 12 militants LR ont voté pour lui, pour sa famille. Non, en vrai, Retailleau, il a eu 34 000 votants sur 46 000. 34 000 voix. Bravo. Avec ça, tu peux être élu. C'est pas maire de Ponto Combo, des tas de trucs au deuxième tour. Pour la présidentielle, il en manque un peu quand même. Hein. Faut qu'il accélère, Bruno. Allez, quitte ta femme. Épouse une princesse. La mode est aux princesses. Fais une paparazza d'où tu la touches pas, comme Bardella. Tu sais, Bardella et Maria Carolina, c'est frisqué hein, sur les photos. Ils se touchent pas. Tu sens que s'ils font un enfant, ils vont le concevoir. Il y aura un drap avec un trou entre les deux. Oh, allez, Bruno, une paparazza d'au Puy du Fou avec Philippe de Villiers en robe qui porte une perruque. Bruno, t'es sûr que c'est une bonne idée? Ouais. Et puis alors, Apolline, vous interrogerez Gérard Larcher sur la guerre en Iran.
Oui.
Car le détroit d'Hormuz est toujours bloqué. Eh oui. Aïe, aïe, aïe.
Oh là là.
C'est bien compliqué tout ça. Bah ouais.
Ouf, ouf, ouf.
Non mais, des fois il est ouvert.
Et des fois
il est fermé. Pas ce matin par exemple, il était fermé.
Ah ouais, voilà.
Peut-être que demain il sera ouvert. On voilà, peut pas savoir. Enfin, l'important c'est d'avoir la santé. Hein,
voilà.
Ça va, Apolline, vous ?
Bon,
ça
pas va, mal, pas mal. Et
alors vous, sur la guerre,
bon.
Non, ça va, moi, ça va. Sur la guerre, le gouvernement a annoncé des aides sur l'essence. Alors pour en bénéficier, vous devez avoir peu de revenus et être un gros rouleur. Autant de vous dire que Doc Gynéco va se régaler. Vous verriez ce qui se roule. Et sans bagnole encore. En régie, c'est pareil. Ils ont ouvert le champagne. Enfin, une 8-6 pour fêter ça. Je pense qu'il y a une petite incompréhension. Allez, j'entends allez. Gérard Larcher. Je crois qu'il y a Gérard Larcher dans les couloirs.
Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre qu'on ripaille à plein ventre? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signaux blancs bien poirés? C'est la mousse douce, non mire la pétille.
Eh ben il est là, il est parti. Rendez-vous avec Gérard Larcher à 8h.
Merci Arnaud de Manche, que l'on retrouve tout à l'heure à 8h15. Il est 7h26 sur RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis, notez à 7h40 cette question, évidemment, des chèques. Enfin, c'est pas des chèques, c'est des aides. Des aides ciblées pour les gros rouleurs, mais vraiment les plus modestes. Le gouvernement accélère sur les aides à la pompe, sauf qu'il y a de nombreux professionnels qui se sentent oubliés. C'est le cas notamment des infirmiers. Le représentant des infirmiers libéraux sera en direct avec nous, mais j'attends aussi tous vos témoignages au 32-16. Est-ce que ces aides vous concernent? Est-ce que vous allez réussir à les toucher? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes juste au-dessus des seuils? Témoignez aussi de ce que ça a changé dans votre vie, les prix du carburant. Et puis notez qu'à 7h50, ce sera la voix de droite, Louis Sarkozy. A tout de suite. 7h29, la météo sur RMC, ça se gâte un peu.
Oui, au sud et à l'ouest essentiellement, avec quelques passages nuageux, notamment entre la Bretagne, les Charentes, le Massif central, le Languedoc, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Quelques averses déjà ce matin. C'est surtout au cours d'après-midi que ces averses vont prendre un peu plus de vigueur avec quelques coups de tonnerre, notamment vers l'Ardèche, la Lozère ou encore la Corse. Nouveaux orages en soirée sur les Pyrénées. Mais au nord et à l'est, entre Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, plein soleil, ciel tout bleu, avec toujours cette petite bise qui souffle. Les températures cet après-midi, en hausse sur la moitié nord, vous aurez 18 à Lille, 20 à Paris. Et au sud, on sera entre 19 et 26 degrés, 26 pour Bordeaux et Toulouse.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Un couteau entre les cahiers et la trousse. 800 armes blanches ont été retrouvées dans les cartables d'élèves en un peu plus d'un an. Les syndicats alertent sur un sinistre phénomène de mode. Une nouvelle aide carburant au compte-gouttes, peu importe le métier, mais réservée aux travailleurs modestes. Seuil à peine au-dessus du SMIC qui fait bondir les oppositions. Et en foot, les remplaçants parisiens de sortie pour affronter Nantes en match en retard de Ligue.
Le fléau des armes blanches à l'école, en un chiffre, les forces de l'ordre en ont retrouvé plus de 2 par jour en moyenne depuis février.
Depuis que policiers et gendarmes fouillent des cartables à l'entrée des établissements. Bilan dressé par le ministre de l'Éducation nationale, Bérangère Bocquillon, ce sont précisément 800 couteaux ou cutters qui ont été saisis.
Un chiffre beaucoup trop élevé pour Jean-Rémy Girard, professeur de lycée et président du syndicat de l'éducation SNALC.
Ça fait beaucoup d'armes blanches dans les sacs de nos élèves. Il y a quand même une sorte de phénomène de mode qui est en augmentation.
Sans compter que des chefs d'établissement découvrent aussi des couteaux en dehors de ces fouilles, comme Nicolas Bonnet, proviseur d'un lycée professionnel à Libourne et membre du syndicat SNP2N UNSA. Il a exclu un élève en mars dernier.
On a eu des témoignages de jeunes comme quoi l'un de leurs camarades les avait menacé de se servir d'un couteau. On lui a demandé de sortir ses affaires et effectivement, il avait un couteau sur lui.
Provocation, besoin de se sentir en sécurité. Dans cette affaire comme dans d'autres, ces armes blanches sont pour ce proviseur le résultat de discours anxiogènes et d'un trop-plein de réseaux sociaux.
Là, on était dans un problème psychologique. On a besoin non pas de détecteurs de métaux à l'entrée de nos établissements, on a besoin de détecteurs d'élèves en souffrance.
Depuis l'an dernier, un conseil de discipline est systématiquement convoqué lorsqu'un élève est repéré en possession d'une arme blanche.
À Bérangère Bocquillon pour RMC. C'est notre mission du matin, comprendre qui aura le droit aux nouvelles aides carburant annoncées par le gouvernement. Faisons le tri ensemble. D'abord, on prend les transporteurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Un coup de pouce existait déjà pour eux. Il va être rehaussé d'environ 10 centimes par litre. Et puis, nouveauté, une aide pour les travailleurs modestes dits gros rouleurs. Ça veut dire ceux qui, peu importe leur métier, habitent à plus de 15 kilomètres de leur boulot ou alors qui font 8000 kilomètres par an. Et encore, il faut pour une personne seule gagner moins de 1500 euros net par mois. Réaction des oppositions en trois mots, Cyprien Pézeril peut mieux faire.
Une aide d'environ 20 centimes par litre pour les gros rouleurs, bien peu, déplore le député Rassemblement National Mathias Renaud.
20 centimes, c'est insuffisant parce que vous avez plus de 50 centimes d'augmentation depuis quelques semaines.
Pas de chèque pour tous, mais une aide ciblée. Le gouvernement poursuit cette stratégie. Seuls les actifs aux revenus modestes seront concernés. Par exemple, une personne seule doit gagner moins de 17 000 euros par an. Il faut élargir la cible, réclame le socialiste Philippe Brun.
C'est tout à fait insuffisant, en vérité. Il y a beaucoup plus de 3 millions de personnes qui vivent aujourd'hui cette explosion des prix, notamment du gasoil. Il faut maintenant aller beaucoup plus loin.
Même colère de l'insoumise Aurélie Trouvé.
On est dans les vacances de Pâques. Il y a des gens qui ne viennent pas voir leur famille parce que
ils n'ont pas l'argent pour faire l'aller-retour.
Pour cette députée France Insoumise, des ressources existent pour aider davantage les automobilistes.
Il n'y a aucune volonté de toucher aux super profits des profiteurs de cette guerre, Total et les grands pétroliers. C'est incompréhensible que le gouvernement en soit là à ne rien faire.
Le Premier ministre qui néanmoins n'exclut pas d'autres annonces en fonction de l'évolution de la crise.
Et dernier détail, pour obtenir cette aide, il faudra faire une déclaration en ligne sur le site des impôts. La plateforme sera mise en place d'ici fin mai, mais elle sera rétroactive et prendra en compte le mois d'avril.
Et vous, est-ce que vous êtes gros rouleur? Est-ce que vous êtes sous la barre des 17 000 euros par an? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes hors de ces critères? Appelez-nous pour réagir et pour témoigner au 32-16.
L'actualité, c'est aussi cet énième revirement de Donald Trump. Le président américain a finalement prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran hier soir. Il dit attendre une proposition de paix de Téhéran, mais il maintient le blocus américain du détroit d'Ormuz, détroit dans lequel on vient de l'apprendre, des tirs iraniens ont visé un porte-conteneur au large d'Oman. L'équipage du bateau est sain et sauf. Sur l'autre front, entre le Hezbollah libanais et Israël, à Paris hier, le premier ministre libanais a réclamé le retrait des troupes israéliennes de son pays, ainsi que le retour chez eux des prisonniers et des déplacés libanais. Il l'a dit aux côtés d'Emmanuel Macron, qui a posé des conditions pour consolider la trêve en cours.
Cela implique que le Hezbollah cesse de viser Israël et de prétendre se substituer à l'État dans l'exercice de ses prérogatives. Cela implique aussi qu'Israël renonce à ses visées territoriales et comprenne que la condition de sa sécurité est un État libanais fort et non une politique du chaos. Dans cette période difficile, nous devons aussi préserver l'avenir et la résilience du Liban. La France s'engagera pour la reconstruction des zones touchées par les bombardements.
Et des négociations de paix Liban-Israël sont prévues demain à Washington. On vous en parlait hier, le gouvernement a finalement affiné ses chiffres sur la cyberattaque qui a visé l'Agence nationale des titres sécurisés. Près de 12 millions de comptes ont été touchés par ce vol de données sur ce portail où l'on fait nos demandes de permis de conduire ou de pièces d'identité. Le foot et le Paris Saint-Germain qui devrait vider son banc ce soir contre le FC Nantes. Match en retard de Ligue 1 lors duquel on devrait voir un 11 titulaire atypique. Les têtes déjà en partie tournées vers la demi-finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Sarah Bellienne.
Trois jours après la défaite contre l'Olympique Lyonnais, le PSG veut rebondir ce soir contre Nantes avec certainement des joueurs plutôt habitués au banc de touche. Luis Enrique, l'entraîneur parisien.
On a gagné tout ce qu'on a gagné l'année dernière grâce à ce type de joueurs qu'on a eu comme remplaçant. Ils sont entraînés très bien tous les temps, ils ont apporté leur qualité et ça a été les grands réussis de cette équipe.
Un turnover forcé, les Parisiens vont enchaîner trois matchs en six jours avec un point d'orgue, la réception du Bayern Munich mardi prochain en Ligue des Champions. Mais ce rythme effréné ne semble pas pousser Luis Enrique à changer de gardien de but. Surprenant pour Jérôme Alonso, consultant la chaîne L'Équipe.
Il y aurait eu un match avant le Bayern. Il n'y a pas de débat, Safonov a besoin de jouer, d'enchaîner. Mais t'as deux matchs. Et tu peux remettre Lucas sur un match pour, justement, s'il arrive un pépin à Safonov plus tard, mais au moins Lucas, il a joué un petit peu. Tu vois, il a des repères, il a revu les gars, il a rejoué, il a remis un peu les gants. Dans un match officiel, c'est important aussi.
Lucas Chevalier n'a pas disputé la moindre minute avec le PSG depuis trois mois.
Et toujours en foot, notez la qualification hier soir de Lens en finale de la Coupe de France. Sa première depuis 1998. Deuxième demi-finale, ce sera ce soir. Strasbourg accueille Nice à 21h. Ce sera à suivre évidemment sur RMC.
Et puis le quintet, c'est à Châteaubriand.
Départ à 13h55. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Sa favorite, le numéro 5, Joyce Delto. L'outsider, c'est le numéro 9, Yalto Dertals. Le 5 et le 9.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Après les annonces de Sébastien Lecornu, les précisions du ministre de l'économie Roland Lescure. Écoutez, c'était aux 20h de France 2 hier soir.
Il y a des gens qui travaillent, qui utilisent leur voiture pour aller travailler ou pour travailler. On a parlé d'aide-soignants, d'infirmières, etc. Et que cela, il faut qu'on les aide particulièrement. En dessous de 17 000 euros par an, ça représente 20 centimes par litre d'essence au plein.
En dessous de 17 000 euros par an, vous l'avez bien entendu. Bonjour Daniel Guilherme, vous représentez les infirmiers de France. Le ministre vous a cité hier, il a dit qu'il allait vous aider. Sauf qu'il y a très peu d'entre vous qui toucheront concrètement cette aide de 20 centimes par litre. Et vous ne décolérez pas. J'aimerais aussi vous entendre, vous qui nous écoutez. Est-ce que vous avez fait le calcul à la fois sur les aides? Est-ce que vous les toucherez? Et puis de combien? Combien ça vous coûte aujourd'hui? Je vous attends au 32-16. Il est 7h38.
RMC. jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Après plus de 50 jours de guerre au Moyen-Orient, le gouvernement se résigne à aider les Français. 20 centimes d'aide pour les gros rouleurs les plus modestes, ça concerne, disent-ils, 3 millions de personnes. Mais ce sont des aides évidemment très ciblées. Et puis des aides renforcées pour les pêcheurs, les agriculteurs, le BTP et puis les oubliés. Bonjour Daniel Guilherme.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous êtes le président de la Fédération nationale des infirmiers. Les infirmiers, ils ont été cités hier par le ministre de l'économie. Mais concrètement, est-ce que vous avez l'impression que vous serez concerné ?
Écoutez, non, si on regarde en tout cas les caractéristiques des contraintes en fait à apporter pour être éligible aux aides, on a plutôt le sentiment d'être dans une éviction déguisée. C'est-à-dire que les plafonds en fait qui sont mis sont tels qu'il y aura très peu d'infirmiers libéraux à être éligibles.
Vous serez juste au-dessus des seuils. Je précise effectivement qu'il s'agit d'une aide de 20 centimes donc par litre pour les professionnels qui roulent plus de 30 km par jour ou 8000 km sur un an et qui touchent moins de 17 000 euros par an.
Oui.
Et ça, c'est pas le cas pour vous. Pour les infirmiers libéraux.
Certainement pas en moyenne. Alors il y aura peut-être quelques cas en fait de professionnels, des femmes isolées ou des familles monoparentales avec des enfants qui pourront effectivement le toucher.
Mais
voilà, mais de manière générale, non, absolument pas.
Quelle est la situation aujourd'hui des infirmiers libéraux ? On a entendu certains, et d'ailleurs on a eu le témoignage de Sophie, par exemple, à notre antenne, qui dès le début, dès les premières semaines, disait « mais moi je ne vais pas m'en sortir et donc je ne prendrai pas de nouveaux patients. Et puis, si les actes ne sont pas augmentés, je n'y arriverai pas. »
On sort d'une négociation conventionnelle avec l'assurance maladie, mais on a un cadre réglementaire qui fait que nous ne pourrons pas en fait toucher ces nouvelles valorisations avant le mois de novembre. Donc on est dans une période là aujourd'hui de tension en tout cas sur les prix du carburant et aujourd'hui effectivement cela peut poser quelques problèmes de trésorerie pour certains cabinets.
Les problèmes de trésorerie parce qu'effectivement, et ça c'est quand même un des points, je vous le disais quand vous êtes rentré dans ce studio parce que personne n'est capable vraiment de me répondre là-dessus. Le déplacement, ça fait partie de la profession, le coût donc de ce déplacement est censé pouvoir être déductible, ce sont des frais. Donc ok, c'est très dur sur le moment de les sortir, mais normalement, vous devriez les récupérer en frais réels à la fin en déduction d'impôts.
Alors il y a deux modalités hein, de déduction des frais kilométriques, c'est soit au réel, où effectivement vous gardez vos tickets de carburant et vous les déduisez ensuite, ou alors vous êtes au forfait. La majorité des professionnels aujourd'hui libéraux sont au forfait. Donc on a des forfaits qui sont posés dans le cadre réglementaire. Et donc aujourd'hui, on n'aura pas cette possibilité-là. Donc on n'aura pas de prise en compte de la hausse du carburant.
Est-ce que vous menacez d'arrêter de prendre certains actes, de prendre en charge, et je le comprendrais très bien, hein, je veux dire, vous faites les calculs et vous vous dites qu'il y a certains actes qui sont payés trop peu et qui nous demandent trop d'efforts, on ne les fera plus?
Écoutez, il y a une semaine, on a lancé un mot d'ordre, nous, à la Fédération, d'arrêt des prises en charge en sortie d'hospitalisation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler, mais en tout état de cause, on ne prend plus de nouveaux patients qui sortent de l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà des professionnels qui s'étaient de manière, en cas d'usage en tout cas, lancés là-dedans, puisque effectivement, il y a une sélection des patients qui s'opère en fonction de la distance qui sépare le patient du cabinet infirmier. Donc les professionnels aujourd'hui font des économies, en tout cas sur leur tournée. Ouais.
Est-ce que ça veut dire que vous demandez des aides spécifiques ? Vous espérez encore pouvoir
écoutez,
en obtenir ?
On voit très bien que hier soir, le Premier ministre a eu deux approches. Une approche économique et une approche par métier. On a été, nous, évincés de l'approche métier, alors que d'autres le sont, les taxis, les VTC. Et donc, c'est pas un oubli, en fait, hein, on le voit très bien, c'est pas un oubli, c'est un choix politique. Ce choix politique, de notre point de vue, il est incohérent, il est injuste et il est intenable. Alors pourquoi il est incohérent ? On peut pas demander à la profession de soutenir l'approche domiciliaire et d'un autre côté de ne pas l'aider pour le faire. Premier point. Deuxième point, il est injuste parce qu'on le voit très bien, il y a eu un choix politique. Certains approchent métier, d'autres approchent économique. On nous met dans l'approche économique. Et enfin, il est intenable. Pourquoi ? Parce qu'on voit très bien aujourd'hui que vous avez en fait des carburants qui sont taxés à plus de la moitié de la valeur du litre. Et que dans ce cadre-là, on a quelque chose qui ne permettra pas, en tout cas, d'arriver aux objectifs qu'on a, c'est de développer les soins et le maintien à domicile des patients âgés.
Et il y a de nombreux auditeurs qui nous appellent au 3216 pour témoigner aussi de leur situation. Christophe et David sont avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Christophe, vous êtes commercial à Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence. Vous vous retrouvez à faire beaucoup de routes, notamment du transport, mais sans avoir la qualification transport. Donc les aides, vous les toucherez pas.
C'est ça. En fait, moi, je suis pas commercial, je suis commerçant.
D'accord.
Donc je vends de la peinture.
Okay.
Voilà, un produit pétrolier déjà qui a pris plus de 12 à 17 % que je peux pas récupérer à mes clients puisque les prix de mes clients sont déjà fixés pour l'année.
D'accord.
Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai deux marchés publics. Mon entreprise fait je vais être très factuel comme ça
allez-y, au contraire, c'est formidable. Voilà. On vous suit.
Mon entreprise fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai deux marchés publics qui représentent 60 000 euros de chiffre d'affaires. Mais dans ces marchés publics, je dois livrer sur deux départements. Donc, deux départements, c'est le 04 et le 05. Ça fait énormément de kilomètres à faire. Puisqu'on est dans les montagnes et qu'on travaille en kilomètres. Ça, c'est la même, c'est le truc. Sur ces marchés publics, donc, 60 000 euros, c'est 15% de mon chiffre d'affaires annuel. Sur ce marché public, une fois que j'ai payé tous les employés, tous les investissements en machines, tout ça, il me reste 1,5% de résultats, c'est-à-dire entre 600 et 900 euros. Si le marché continue comme ça, si la guerre va durer un an, le même marché public me coûtera 1200 euros. C'est-à-dire que je vais perdre 1800 euros rien qu'avec les frais d'essence.
Ça, avec les frais d'essence et de transport, voilà. Parce que vous allez livrer la peinture.
Exactement. C'est quelque chose qui est factuel. J'ai demandé à exercer un cas de force majeure pour réajuster mes prix sur ces marchés publics.
Ouais.
Ça m'a été refusé parce qu'on m'a dit que le cas de force majeure n'était pas caractérisé dans ce cas de figure.
Donc ils n'ont pas accepté de revoir à la hausse le prix de ce marché.
Exactement. C'est la même chose pour tous mes clients que mes marchés publics qui travaillent pour appliquer de la peinture pour des marchés publics. Leurs prix ne sont pas réactualisés. Donc forcément, ils me refusent des augmentations sur les marchandises. Donc sur cette année, si on continue sur ça, les petites entreprises comme moi vont perdre énormément d'argent. Voilà.
C'est extrêmement clair. Vraiment, on a l'impression avec vous de vous accompagner dans un problème de mathématiques où on fait des multiplications, des soustractions et où on arrive effectivement à ce résultat à la fin qui est que vous allez vous retrouver à devoir travailler à perte. Christophe, restez avec nous. Il y a aussi David. David qui, lui, est travailleur indépendant dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour David.
Oui, bonjour Apolline.
Vous faites quoi, vous, dans la vie et quel est l'impact?
Donc voilà, moi je travaille pour des applications en crowdsourcing, c'est-à-dire je suis payé à la tâche, je fais des visites mystères, des contrôles de positionnement de produits en grande distribution et magasins spécialisés. Donc tous les jours, je regarde très tôt le matin ce qu'il y a de disponible, je sélectionne une mission, je les fais en fonction des secteurs géographiques où j'ai le plus de travail.
Okay.
Et là, j'ai décidé de réduire déjà depuis des années mes déplacements parce que on est tellement taxé que ça devient de moins en moins rentable, ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'on fait en indépendant, c'est pour faire du chiffre et du bénéfice si possible. Et là, au vu du coût de mes déplacements, je reste dans le département et à la rigueur l'Aude à côté.
En fait, vous réduisez votre activité.
J'avais déjà réduit avant parce que Monsieur Macron a augmenté sans qu'on en parle beaucoup. L'année prochaine, on sera à 5 points de plus de cotisation URSSAF. Donc, on arrive à 26% au lieu de 21%, ce qui fait beaucoup quand on a un petit indépendant à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'ai réduit volontairement déjà avant. Parce que
vous êtes au-dessus ou en dessous des 17 000 euros nets par an?
Le problème, c'est que nous, quand on compte nos revenus, on se base, les impôts se basent sur notre chiffre d'affaires. Donc, on a quand même une façon de. Bon, c'est un peu curieux, mais bon, mon ami, on est tous les deux, il est en freelance aussi comme moi, il travaille à la maison, et on compte notre imposition de la même façon, alors qu'il n'y a pas de déplacement. Vous voyez, c'est un peu.
Vous rentrez dans aucune case. C'est exactement ça, la grande difficulté. C'est que là, on met en place des cases. Alors, elles sont quand même toutes petites, déjà, pour rentrer dedans. Mais effectivement, on a quand même l'impression que chaque situation, à chaque fois, l'aide vous passe sous le nez. Merci David et Christophe. David, c'est la première fois que je vous accueille, non?
Ah Marcel... oui, c'est un plaisir de vous avoir.
Eh bah, ben, vous avez bien fait de passer là.
De travailler, ça me stimule et puis d'entendre les autres témoignages et puis bon. Votre enthousiasme, ça fait du bien. Mais on est découragé en France. Bon, bah, c'est... reprendre, c'est une horreur.
Ça au moins, c'est gratuit l'enthousiasme. Voilà, ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal. Mais pour autant là, franchement, vous aimeriez du sonnant et trébuchant et je le comprends bien. Il est 7h51. Merci à tous les deux d'avoir témoigné et merci à vous évidemment, Daniel Guilherme, d'être venu donner aussi votre point de vue, celui des infirmiers libéraux, une fois de plus, les oubliés. Il est 7h51. Louis Sarkozy est rentré dans ce studio. Salut Louis.
Bonjour.
Après
Apolline.
Paris et Strasbourg, une salle de shoot pourrait ouvrir à Marseille. Et vous y êtes favorable, Louis?
Mais les salles de shoot, c'est peut-être désagréable, mais c'est moins de maladies, c'est moins d'overdoses, c'est moins de délinquance. Toutes les études le montrent. Il serait peut-être temps d'étudier le sujet.
Oui, aux salles de shoot, nous dit la voix de droite. Louis Sarkozy, dans un instant.
Sympa, cette droite.
N'hésitez pas aussi à réagir. Il est 7h52.
RMC, Apolline Martin.
Dans un instant, la voix de droite. Mais d'abord, le bonus, Mathieu, ça va très vite pour Madonna.
I feel so free. Je me sens si libre. C'était le premier extrait dévoilé la semaine dernière. L'album est attendu pour le 3 juillet. Mais Madonna, qui promet une ambiance très dance floor, on en a parlé. Et un plan de communication qui est déjà bien en place. Madonna qui a fait une apparition surprise au festival Coachella en Californie en plein concert de Sabrina Carpenter. Il y a comme une filiation. Vous les entendez reprendre Vogue devant des dizaines de milliers de spectateurs. Et elles ont aussi dévoilé un nouveau titre, un titre en duo. Bring Your Love. Petit couac en revanche, chapeau. Pendant le concert, pendant le duo Sabrina Carpenter-Madonna, la diva s'est fait dérober ses tenues, un costume, des archives, une veste, un corset, entre autres. Ce ne sont pas de simples vêtements, dit-elle. Ils font partie de mon histoire, déplore Madonna, qui veut tellement retrouver ses tenues qu'elle promet désormais une récompense pour leur...
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
7h54 sur RMC et RMC Story, c'est le jour de la voix de droite. Ce matin, c'est vous, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Après Paris et Strasbourg, faut-il ouvrir une salle de shoot à Marseille? La ministre de la Santé s'est prononcée hier en faveur de cette expérimentation. Les habitants y sont opposés. Ils craignent de voir s'installer près de chez eux davantage de toxicomanes, du trafic. Sauf que pour vous, Louis, c'est sans appel. Les salles de shoot, c'est oui.
Les faits, Apolline, sont des choses têtues. Il reste des faits, il reste vrai qu'on les aime ou non. Depuis 50 ans, la France a tout misé sur le répressif. Résultat, plus de drogués, plus de morts, plus de trafic, des prisons pleines et des quartiers entiers abandonnés aux dealers.
Vous êtes donc favorable aux salles de shoot?
Je suis favorable à ce qui marche, c'est-à-dire à ce qui fait baisser les overdoses, à ce qui diminue le crime et ce qui augmente la santé publique. Et les salles de shoot, pardon, ça marche. Il suffit de regarder les études, il suffit de regarder les chiffres.
Quels chiffres?
Prenons le Portugal. En 2001, Lisbonne décriminalise l'usage de toutes les drogues. Pas légalisé, décriminalisé. On sort le consommateur du tribunal pour le confier au médecin. 25 ans plus tard, mort par overdose divisé par 5. Nouvelle contamination VIH chez les usagers en chute de 90%. Consommation chez les jeunes en baisse. Et le Portugal est passé du pire élève d'Europe au modèle cité partout dans le monde. C'est pas un rêve de militant, c'est pas une chimère, c'est un fait mesuré par l'OMS.
Est-ce que c'est pas un cas unique? Est-ce que vraiment on peut faire pareil?
Alors prenons le cas suisse. Le cas suisse est encore plus spectaculaire. Souvenez-vous de Platzspitz, le Needle Park de Zurich à la fin des années 80. Des seringues partout, des cadavres chaque semaine. Le pire de la misère à ciel ouvert. Les Suisses ont fait exactement ce que certains Marseillais redoutent aujourd'hui. Salle de consommation, prescription médicale d'héroïne pour les plus dépendants. C'est la fameuse politique des quatre piliers. Je ne sais pas si vous en souvenez. Prévention, thérapie, réduction des risques, répression. Le bilan, très simple. Mort par overdose divisé par deux, VIH chez les usagers effondré, la petite délinquance liée à l'héroïne, celle qui gangrène Marseille, vol, cambriolage, arrachage, a chuté à près de 90%. Un toxicomane qui reçoit sa dose à l'hôpital n'agresse plus votre grand-mère dans le métro. Et le plus beau, les nouvelles entrées en dépendance ont chuté de 80%.
Bon, ça paraît quand même un peu fou. Comment vous expliquez du coup les derniers paradoxes?
Mais c'est ça tout le génie de l'approche. Dès qu'on sort la drogue du romantisme, de la rébellion pour la rattacher à un centre médical et à des gens malades, elle perd son attrait chez les jeunes. La prohibition, paradoxalement, vend la drogue. Elle lui donne le frisson, l'interdit, la transgression. Le médecin, lui, la tue symboliquement.
Les Marseillais disent la ville n'a pas besoin de ça. On peut les comprendre quand même.
Oui, je les comprends aussi, vraiment qu'on se trompe pas. Mais je pense qu'ils se trompent d'ennemis. Ce qu'il voit tous les jours, les seringues dans les cages d'escalier, les consommateurs à ciel ouvert, les guetteurs de 12 ans, c'est précisément le résultat de l'absence de salle de shoot. Pas sa conséquence. La salle, c'est ce qui fait disparaître la drogue de la rue. L'étude de l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale sur la salle de shoot Gaïa à Paris. Alors oui, on peut ne pas aimer le concept, mais elle le montre très clairement. Baisse nette des seringues au sol, baisse des injections publiques, baisse des passages aux urgences. On sort le problème de l'espace commun et on le traite et on le contrôle comme l'addiction est un phénomène médical.
Est-ce que c'est une ligne libérale ça, Louis Sarkozy ?
Mais la ligne libérale, en vérité, Apolline, elle tient à une phrase. L'État a pas à me dire ce que je mets dans mon corps. Ce n'est pas son rôle. Mais il doit protéger les citoyens de ce que le trafic fait à leur ville. Or, aujourd'hui, la guerre à la drogue coûte des milliards, remplit des prisons, engraisse les cartels et ne sauve personne. C'est le plus beau gâchis libéral qu'on puisse imaginer. De l'argent public en plus, de la liberté en moins et aucun résultat.
Alors, qu'est-ce que vous dites aux Marseillais ?
Qu'on ne leur demande pas d'aimer la drogue. On leur demande d'accepter que la réponse répressive a échoué dans leur ville. Montesquieu, dans l'esprit des lois, posait une distinction décisive. Il ne faut jamais confondre entre le vice et le crime. Le vice regarde Dieu, la conscience, la famille. Le crime, lui, regarde la loi. Se droguer est un vice et on peut le détester. Mais ce n'est pas un crime. Montesquieu avait raison, on ne gouverne pas les hommes par des interdits infinis. Marseille vit cela depuis toujours. Le répressif, a échoué. Il serait peut-être temps d'essayer autre chose.
Notre voix de droite, Louis Sarkozy. Donc oui, aux salles de shoot. Demain, à votre place, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo. Il est 7h58. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h passé de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une, ce matin, les mauvaises perspectives économiques pour 2026. Vous allez voir, et on a des chiffres que les patrons prévoient de moins recruter cette année. On va vous aider à comprendre dans ce journal les nouvelles aides carburant annoncées par le gouvernement, prolongées, élargies. 3 millions de gros rouleurs, mais sous conditions de revenus et en fonction des kilomètres parcourus. Et puis on était cette nuit à RMC à la toute première projection du film tant attendu, le biopic sur Michael Jackson. C'était dans un cinéma près de Marseille.
On s'en doutait, mais les perspectives économiques sont mauvaises pour les mois qui viennent.
Et quand il y a de l'incertitude, eh bien les patrons embauchent moins. C'est ce qu'expliquait un économiste un petit peu plus tôt ce matin sur RMC à propos donc de cette enquête de France Travail qui nous apprend eh bien que les intentions d'embauche sont en baisse de 6,5% pour 2026 par rapport à 2025. Et la guerre ne va rien arranger. Prenez le secteur du bâtiment qui est un des plus touchés. Écoutez, ici à Versailles avec Victor Girard pour RMC.
Peu importe votre métier, il faut que vous remplissiez deux critères. D'abord celui du revenu.
Victor Girard, donc dans un des secteurs les plus concernés, c'est le secteur du bâtiment, concerné donc par ces mauvaises perspectives économiques. Victor Girard, à Versailles, près de Paris.
Au rythme des coups de marteau, trois ouvriers, casque blanc sur la tête, s'activent à démonter la toiture d'un bâtiment.
Bienvenue au chantier Plassoche.
C'est Nelson, le patron de cette petite entreprise spécialisée dans le ravalement de façades qui nous accueille.
On pourrait ajouter une personne sur ce chantier sans problème. Malheureusement, on ne peut pas.
Il est impossible d'embaucher. La faute, selon lui, à une main-d'œuvre qualifiée devenue trop chère et des coûts qui ont fortement augmenté en un an.
Rien que sur la fourniture, vous pouvez compter minimum entre 15 à 30% suivant le type de matériaux.
Dans le même temps, le patron de 49 ans a vu son carnet de commandes être divisé par 3.
Les gens sont très prudent. Les travaux ne sont plus leur priorité. Les conséquences, c'est clairement, nous ne pourrons pas répercuter toutes ces hausses. C'est impossible. Le client lui-même n'aura pas les moyens de payer. C'est comptable. Si vous faites moins de chiffres, forcément, vous ne pouvez pas embaucher.
Alors, plutôt que d'embaucher, Nelson serre les dents et tente de maintenir sa dizaine de salariés coûte que coûte.
J'imagine que ça vous affecte de ne pas pouvoir développer comme vous l'aimeriez.
Bien évidemment, entreprendre, c'est créer quelque chose. Donc, de ne pas pouvoir développer son entreprise, de créer de la richesse pour son pays, c'est très frustrant.
Et la situation n'est pas près de s'arranger. Le patron vient de recevoir un courrier d'un fournisseur lui annonçant une future hausse de 16% sur certains produits issus de la pétrochimie à cause de la guerre au Moyen-Orient.
Alors, autre indicateur qui n'est pas bon ce matin, c'est le livret A qui vient de connaître son pire mois de mars. C'est évidemment lié au taux du livret A qui a été abaissé en février à 1,5%. Effet immédiat, les Français ont retiré 490 millions d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé. Et c'est donc dans ce contexte économique que le gouvernement délocalise le Conseil des ministres à Montluçon, aujourd'hui, dans l'Allier, consacré à la simplification administrative pour l'industrie et l'agriculture. C'est dans ce contexte aussi, évidemment, qu'il vient d'annoncer de nouvelles aides face à la flambée des prix des carburants. Ça a été annoncé en deux temps, hier soir. faut s'accrocher pour comprendre. On va vous écouter avec attention. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Donc, les aides sectorielles qui touchaient déjà pêcheurs, agriculteurs et routiers sont prolongées, même élargies aux bâtiments. Et la nouveauté, eh bien, c'est que ces aides concernent aussi 3 millions de Français modestes qui ont besoin de la voiture. Sébastien, vous allez nous dire de qui on parle et quelles sont les conditions.
Oui, alors la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de critère de profession. Pour être concerné, il faut simplement être ce qu'on appelle un gros rouleur, c'est-à-dire avoir besoin de sa voiture, soit pour aller travailler à au moins 15 km de chez soi, soit pour son activité et faire plus de 8000 km par an. Mais il y a un plafond de revenus. Cette aide sera ouverte à la moitié des contribuables les plus modestes. Pour une personne seule, ça correspond en gros au SMIC. Pour un couple avec deux enfants, par exemple, là, il ne faut pas dépasser 50 000 euros par an. Pour les personnes éligibles, le montant de cette aide sera en moyenne de 20 centimes par litre, nous dit le gouvernement, mais ce sera un forfait, donc ça ne correspondra pas forcément exactement à ça. On a calculé ce matin, en gros, que ce chèque devrait tourner autour d'une cinquantaine d'euros au maximum pour l'ensemble des trois mois, somme qui sera versée en juin. Il faudra en faire la demande sur le site des impôts à la fin du mois de mai.
Alors, on entend depuis ce matin, au 32-16, sur RMC, les Français expliquant qu'ils roulent, mais qu'ils n'entrent pas dans ces critères, les critères de ces aides. C'est un choix du gouvernement de ne pas les généraliser.
Oui, c'est un choix assumé. Sébastien Lecornu tient à faire du sur-mesure ciblé sur ceux qui en ont le plus besoin. Le sujet, c'est clairement l'état du budget. Pas question de faire un chèque généralisé et de creuser encore les déficits, encore moins de baisser les taxes comme le réclame le RN. Ça aurait un effet épouvantable sur nos finances, juge le Premier ministre. Alors même qu'il faut déjà corriger le budget en cours à cause de la guerre, il va falloir rogner au moins 6 milliards d'euros de dépenses, peut-être encore davantage. La conséquence, c'est qu'il y aura forcément des déçus. On les entend déjà ce matin sur RMC, des Français qui roulent beaucoup, mais qui seront juste au-dessus du plafond et qui n'auront droit à rien. La gauche demande déjà à élargir la cible pour toucher davantage de classes moyennes et appelle à piocher dans les profits des pétroliers.
Sébastien Krebs en direct pour RMC. En toile de fond, il y a évidemment la guerre au Moyen-Orient. Elle cessait le feu finalement prolongé. Il devait se terminer ce soir à l'heure américaine, mais Donald Trump a décidé de le rallonger. On ne sait pas pour combien de temps. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué ce matin et un porte-conteneur a été visé par des tirs iraniens au large d'Oman. À 8h07 sur RMC, une question. Ça concerne le football. Qui va rejoindre Lens en finale de la Coupe de France? Les Lensois sont qualifiés hier soir en battant Toulouse 4 buts à 1. Le public a envahi le terrain. 28 ans qu'il n'avait pas atteint une finale. Et ce sera soit contre Strasbourg, soit contre Nice. Ça, c'est l'affiche de l'autre demi-finale ce soir. Ce sera à 21h sur RMC. Les Strasbourgeois qui cartonnent installés en coupe, hein, Camille Borin pour RMC. Demi-finale de Conference League et demi-finale donc de Coupe de France.
Oui, et même si Gary O'Neill, l'entraîneur du Racing Club de Strasbourg, est fier du chemin parcouru, il voit encore plus loin.
Je ne pense pas qu'on nous voyait arriver jusqu'ici dans ces deux compétitions. On ne peut pas juste terminer la saison et dire c'était bien de demi-finale. Non, on a une opportunité, il faut qu'on fasse quelque chose.
Performer dans les coupes, quitte à délaisser le championnat. Le coach assume la défaite 3-0 face à Rennes dimanche dernier avec une équipe remaniée.
Je n'avais pas d'autre choix que de changer l'équipe, mais le bénéfice aujourd'hui, c'est que nous avons un bon groupe, ils sont tous en forme, donc nous sommes prêts pour affronter Nice.
Les joueurs aussi accueillent cette demi-finale de Coupe de France face à l'OGC Nice avec une excitation propre aux grandes compétition. Ismaël Doucouré, défenseur central strasbourgeois.
Les matchs à élimination directe, c'est les matchs les plus satisfaisants à jouer parce qu'on sait qu'au bout, il y a un tour suivant. Et là, c'est une finale, donc forcément, ça va être très passionnant. On a déjà affronté l'OGC Nice. On sait aussi que c'est une très belle équipe, mais on est très confiants.
Ce soir, le Racing pourra compter sur son public puisque le match aura lieu au stade de la Meno. Direction ensuite l'Espagne pour se mesurer au madrilène du Rayo Vallecano le 30 avril en demi-finale aller de Ligue Conférence.
Ce sera donc à 21h sur RMC. Avant ça, à 19h, il y aura Paris contre Nantes, match en retard de Ligue 1, à la fois la lutte pour le titre côté parisien et la lutte pour le maintien côté nantais. Mais alors le mercredi, c'est la journée, vous le savez, des sorties au cinéma, pour ceux qui y vont encore.
La journée des enfants aussi.
Oui, avec aujourd'hui le très attendu biopic qui retrace la vie et la carrière de Michael Jackson. Film consacré à la star américaine, produit par sa famille, c'est important de le préciser parce qu'il n'y a aucune mention à ses problèmes judiciaires. Et notre correspondante à Marseille, Anna Jojard, est allée le voir dès sa sortie, à minuit, donc au cinéma de Plan de Campagne.
C'est sous les applaudissements des spectateurs que s'est terminée la dernière scène.
Franchement, j'ai pas vu le temps passer, quoi.
Moi, j'ai tout aimé. Là, si le film il aurait duré 4 heures, je serais resté pendant 4 heures.
Incroyable. Tous les musiques, l'ambiance.
2 heures de film durant lesquelles on retrace la première partie de la vie de l'artiste, des Jackson 5 à sa carrière solo jusqu'à la fin des années 80. Le tout incarné à l'écran par Jafar Jackson.
L'acteur, c'est vrai, il a très bien joué son rôle. Je voyais des fois Michael Jackson, je le voyais en lui.
Franchement, l'acteur, son neveu, c'est son neveu en plus.
Ils sont pratiquement identiques, quoi. C'est époustouflant.
Mais ce biopic, créé sous la surveillance de l'entourage de l'artiste, n'aborde pas les accusations de pédocriminalité qui l'ont visé.
C'est vrai qu'il manquait pas mal de choses.
Ouais. Le film s'achève en 1988.
Dans la trame, c'est pas tout de suite. Je crois que c'est un peu en fin d'histoire. Donc, ouais, je pense que dans le deuxième, ils vont appuyer sur ça.
Des spectateurs qui espèrent donc déjà une suite à l'histoire de Michael Jackson sur grand écran.
Oui, c'est vrai que la suite, on la connaît déjà.
On la connaît.
Ah, j'aime pas les biopics.
Oui, j'avoue.
Moi, j'aime bien.
Un enthousiasme fou.
Tu connais déjà l'histoire.
Oui, mais bah, Titanic aussi, tu connaissais la fin. Tu as été le voir.
Ah, bah non, moi, j'ai pas été justement. Parce que je connaissais la fin. Voilà, c'est tout le problème.
C'est pas un biopic.
Allez, on connaît la fin.
Ça suffit. C'était le journal de Quentin Vinet. Il y a une ambiance dans ce studio. Allez, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, Blablacar va cesser son activité d'opérateur de bus en France d'ici la fin de l'année parce que ça n'est pas assez rentable.
Eh oui, Apolline, Blablacar Bus était né en 2019 avec le rachat de Ouibus à la SNCF. L'opérateur, connu d'abord pour sa plateforme de covoiturage, proposait jusqu'à 350 liaisons, mais n'est pas parvenu à équilibrer ses comptes. Trop de lignes, trop de concurrence, des prix qui devaient être attractifs pour attirer une clientèle jeune et peu fortunée. Et c'est vrai qu'il y avait des prix d'appel à 5 euros, des prix moyens entre 10 et 25 euros, jusqu'à 60 euros pour les longues distances. Mais des prix trop bas au regard des coûts fixes élevés, coûts d'achat de la flotte.
Ouh là là.
Coûts salariaux élevés en France, carburant élevé aussi. Résultat, 40 postes sont menacés en direct et les autocaristes partenaires de Blablacar partout en France sont fragilisés.
Est-ce que ça veut dire que c'est l'échec des fameux, on les a un peu oubliés, mais c'était les cars Macron, c'est ce qu'on appelait les cars Macron.
Exactement.
C'était cette ouverture justement à la concurrence des transports par bus.
Alors la leçon à tirer, c'est un très grand classique en économie. Ouvrir un marché, c'est facile. Le rendre viable, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme souvent, la concurrence a créé le marché, puis le marché a fini par tuer la concurrence. Parce que depuis 2015, presque aucun acteur n'a gagné d'argent. Rappelez-vous, Ouibus, donc vendu dans un premier temps à Blablacar. Easyline, disparu. Blablacar arrête. Et donc, il ne reste que Flixbus. Je vais pas y arriver.
Oui, c'est dur. Compliqué. Non mais je comprends, vous êtes fatigué, mais
Bus,
je suis là.
Qui s'en sort tout juste et qui une fois qu'il va se retrouver tout seul, et ben là la leçon de l'économie, vous la connaissez, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont sans doute augmenter sur un marché qui reste quand même tout petit hein, 10 millions maximum de passagers quand la SNCF en transporte 5 milliards. Par an, et puis probablement des destinations moins nombreuses puisque moins de 20% des destinations sont rentables.
Donc ils ne vont garder que effectivement les rentables. Allez, les prix du jour comme chaque jour sur RMC.
Le gazole, bah ça avait bien baissé, ça se stabilise autour de 2,18€, mais c'est quand même 10 centimes de moins que la semaine dernière. Le sans-plomb 95, la résistance est là, hein, toujours 1,97, on reste au-dessus des 1,95. Le pétrole, on a eu des tensions cette nuit parce qu'évidemment, on a peur que la guerre reprenne. Donc, on frôle à nouveau les $100 le baril. Et puis, sur le gaz, petit sursaut, mais après un point bas à 36 euros le mégawattheure en fin de semaine dernière. Alors, pas d'affolement sur le gaz.
Merci Emmanuel, il est 8h13. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et vous êtes bien sûr RMC, vous êtes nombreux à réagir sur ces aides tellement ciblées que vous êtes très nombreux à passer à côté.
Oui, oui, on a beaucoup de mécontents ce matin, pour, on peut le dire, Apolline. Laurent nous écrit des miettes, il distribue des miettes, c'est honteux, voilà, pour Laurent qui est dans les Alpes-Maritimes, la situation est grave et le gouvernement ne fait rien, voilà ce que pense Laurent. Stan nous écrit simplement, je fais presque 4000 km par mois, je travaille presque à perte, voilà où en est Stan aujourd'hui. Cet autre message signé Légolas qui nous dit toujours la même chose, les uns payent pour les autres, sans sentiment d'injustice partagé dans vos messages où chacun y va de sa profession, comme ce message signé La Mouette qui nous signale tout simplement que les poids lourds frigo
ça consomme beaucoup, il faut pas les oublier. J'ai Nathalie qui nous dit, et pour les auto-écoles, on fait quoi? On en parle. Elles aussi, effectivement, elles roulent. Ali, lui, nous écrit, là où l'État est très fort quand il décide d'aider les plus modestes, c'est qu'il est très conscient, voire hypocrite. On sait que quelqu'un qui gagne 1500 euros net aujourd'hui ne roule pas avec une voiture. Ça fait malheureusement pas forcément partie de son budget de la même manière pour la classe moyenne. Bravo pour cette escroquerie monumentale, nous dit Ali ce matin. Vous continuez comme Ali, comme tous les autres, comme Stan, à nous écrire sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424.
Il est 8h14 et dans un instant, c'est Arnaud Demange qui vient nous rejoindre. Notez qu'à 8h30, mon invité pour le face-à-face, ce sera Gérard Larcher, le président du Sénat. Est-ce qu'il trouve que ses aides sont à la hauteur? Est-ce qu'il perçoit aussi une crainte de gilets jaunes, de révolte aussi en France? Ou est-ce qu'au contraire, tout le monde est résigné? Je pose la question à Gérard Larcher sur RMC et BFM TV. Puis juste après, il y aura le meilleur de Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, c'est tous les jours sur RMC à 8h50, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16 et c'est Arnaud Demange qui est avec nous.
Every day. Yes. Bonjour à tous. Bonjour. Oh, les amis, Apolline, attention.
Oui.
Attention.
Oui.
J'ai une grosse question.
Ah.
C'est important pour nous. Quel est votre président idéal? Qu'est-ce qu'on aimerait comme président? Parce que le journal La Tribune dimanche a publié un sondage sur ce sujet. Je suppose que vous l'avez lu. De toute façon, pour
47
travailler...
ans, c'était ça l'idée, non?
Oui.
Voilà,
oui,
c'est ça.
Voilà. Je
c'est
vois que vous l'avez lu.
Mon cerveau.
Mais vous l'avez lu parce qu'ici, c'est obligatoire.
Je m'en suis souvenu, parce que comme j'ai 46 ans, je me suis dit que c'était pas mal.
Ah, c'est surtout que c'est le même proprio que RMC, La Tribune du dimanche, CMA, CGM. Donc on est obligé de lire.
De l'apprendre par cœur.
Bah ouais, de l'apprendre par cœur. C'est pareil. Vous savez qu'on est tous obligés, je le dis pour les auditeurs, de passer nos vacances sur un cargo de la CMA-CGM. Départ non, Rotterdam, arrivée Dunkerque pour décharger des containers de limaille de fer. C'est ça nos vies.
Voilà.
Bon, donc vous l'avez lu ce sondage. Le président idéal, c'est 47 ans, vous l'avez dit. Il n'est ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Il est prêt à réformer. Et surtout, prêt à préserver la concorde nationale à tout prix, quitte à pas réformer. Voilà, voilà. Les Français, c'est une Parisienne divorcée sur Tinder. Vous savez, c'est le genre.
Moi, je suis un peu attachante fofolle. Moi, j'aime bien les machos rebelles, tu vois, mais sensibles en même temps. Moi, j'ai besoin de quelqu'un d'indépendant, mais présent à la fois, tu vois. Genre, qui laisse sa vie, mais qui soit là quand j'ai besoin, sans être collant. Sauf quand j'ai envie. Mais ça, il faut qu'il devine. Il faut qu'il communique, quoi. C'est hyper important. Mais j'aime bien aussi quand un mec est mystérieux, genre qu'il me dise tout, mais il garde un petit jardin secret auquel j'ai accès quand même. Enfin, tu vois, un homme déconstruit, féministe, progressiste, pas macho, mais au lit, je veux qu'il me traite comme une petite souillon à les fils. C'est quand même pas trop demandé, quoi.
C'est du vécu, hein.
Ah, bah, total, total.
Tu reprends un spritz, oh.
Les Français veulent à 76%. 76%, ils veulent un président honnête. Donc si Sarkozy se présente, il peut faire 24%. À 48%, ils le veulent courageux. Donc à 52%, ils veulent un lâche qui s'écrase devant la Russie. Ce qui est cohérent. T'additionnes Bardella et Mélenchon, t'as tes 50%. T'ajoutes Dupont-Aignan, t'as les
52%. Et voilà.
Et alors mon préféré, mon préféré, à 25%, il demande du charisme. Et alors là, vous allez voir comme la transition est toute trouvée. Apolline, attention, roulement de tambour, c'est à vous pour la relance.
François Hollande prépare sa candidature pour 2027.
Et avec les critères demandés, il a toutes ses chances du charisme. Faut dire que c'est la Hollande mania en ce moment. Les gens sont sur les Champs-Élysées là. Il y a un vrai désir de Hollande, dans le sens où les gens disent s'il revient, je me casse en Hollande. Vraiment. Il est en couverture de Marianne. Vous l'avez vu?
Ouais.
La couve, il est marqué, je me prépare. Il y a marqué je me prépare en gros. Tu sais pas si c'est une info ou une menace. Et il y a... Et il y a une grosse photo de lui en mode lover. Il regarde par-dessus ses lunettes.
Ouais.
Comme les secrétaires bombasses dans les téléfilms érotiques de M6. Il est à deux doigts de sucer un stylo. Et il y a une rose fanée devant lui. On dirait une pochette d'album de chanteur argentin, vous savez, pour draguer les vieilles du Vésinet. Et alors, dans l'interview, il est au top, il se la joue, je me suis pas accroché au pouvoir. Mec, t'étais à un mois du goudron et des plumes, quoi. C'est vraiment le gars qui te dit, j'ai pas trop insisté auprès de mon ex.
En même temps, elle a changé de numéro, elle a déménagé, t'as une ordonnance d'éloignement. Alors, fais pas trop le kéké. C'est fou, c'est... On est tous vaccinés et ils tentent de revenir, on dirait la rougeole aux États-Unis. C'est lui qui a propulsé Macron. Et là, il veut être le remède au mal qu'il a créé. C'est comme soigner une gastro en allant au kebab. Je suis pas sûr de savoir la bonne stratégie.
Meilleur manœuvre.
Mais bon.
Alors, on en parlait, le biopic sur Michael Jackson sort aujourd'hui.
Oui, c'est un film qui couvre toute sa vie de jeune chanteur noir à vieux détraqué blanc. Alors, à noter...
C'est bien résumé.
Ouais, à noter que le film n'est pas interdit aux moins de 12 ans, comme sa chambre à l'époque.
Non, non.
Alors, je ne conseille pas de le voir en VF, hein. C'est un peu moins bien au niveau du texte. Je suis mauvais, mauvais, aujourd'hui je suis mauvais. Vous avez bien sûr reconnu...
Bad.
Bad, bien sûr. Tiens, une autre. Frappe-le, frappe-le, personne ne veut être défait. Montre-leur combien ton combat est amusant et fort. Vous l'avez ?
Billy. Billy.
Ah, alors je suis gentil, je vais quand même récupérer la bande-annonce, mais bande-annonce en VF.
Je suis mauvais, mauvais. Oh, que c'est triste. Un enfant moche qui a un cancer. Tu veux venir chez moi visiter mon parc d'attractions Neverland, mon petit ?
Mais je ne suis pas un enfant malade, je suis Eric Ciotti, le maire de Nice.
Michael Jackson, le film.
C'est un film qui fait peur, la nuit du film qui fait peur. Il n'y a pas de seconde chance contre la chose au cœur en Dieu, le film qui fait peur.
Bonjour jeune homme, je m'appelle Jacques. Et nous nous sommes croisés chez mon ami Jeffrey Epstein. Dites-moi, vous n'auriez pas vu passer un enfant moche qui a un cancer?
Mais eux, arrêtez!
Bon, moi je vous laisse. Billie Jean n'est pas ma copine. C'est juste une meuf qui dit que je l'ai engrossée. Mais l'enfant n'est pas de moi. Film de Mathieu Béliard.
Allez. Bon film. À demain.
Ah oui, je peux plus le voir.
Ah ouais.
Mathieu voulait aller voir le film. Là, c'est
bah oui, non, mais faut venir avec moi. Moi, j'ai très envie d'aller le voir. Je pense qu'on va se faire une belle séance cinéma. Préparez les pop-corns. On vous fera un débrief.
On va tous ensemble. Oh, il est 8h22. Comment je fais, moi, là,
bah oui,
franchement, genre... comment je fais? Non, mais honnêtement, mettez-vous à ma place. Là, dans un instant, le jingle, le face-à-face. Bonjour, Gérard Larcher.
Le prix de l'essence, le détroit d'Hormuz. Oh là là.
Oh là là. Allez, dans un instant, c'est le face-à-face, vous l'aurez compris, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité, c'est le numéro 2 de l'État, Gérard Larcher, président du Sénat. Il est 8h22, donc à tout de suite. À mes questions ce matin, vous êtes bien sûr le président du Sénat, vous êtes vous-même sénateur Les Républicains des Yvelines, vous êtes le deuxième personnage de l'État. Une question évidemment d'abord sur les conséquences ici de la guerre. Ces aides qui ont été annoncées, qui ont fini par être annoncées hier sur le perron de Matignon, ces aides ce sera notamment 20 centimes par litre pour ceux qui roulent plus de 30 km par jour et qui gagnent moins de 17 000 euros. Est-ce que vous considérez que c'est à la hauteur ?
Écoutez, il faut d'abord regarder la situation financière de notre pays. Situation financière de notre pays avec un endettement extrêmement élevé, aucune capacité d'amortir les crises et la nécessité, on l'a vu hier, de réduire le budget de 6 milliards, 4 milliards pour l'État, 2 milliards
pour la sécurité, sociale,
avant d'aborder quelconque politique de soutien face à la crise. Pourquoi ? Parce que cette crise, elle a des conséquences sur la croissance. Déjà, on a perdu 0,1 point de croissance. Ça peut apparaître techno, ce chiffre.
Et ça sera vraisemblablement 0,2.
3 milliards, déjà. C'est l'augmentation des taux d'intérêt. Nous n'avons cessé de dire qu'on ne pouvait plus continuer à endetter ce pays. Ça fait aujourd'hui un coût de 3,6 milliards. L'augmentation des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Et puis, il y a naturellement l'accompagnement des moyens militaires, c'est 1 milliard. Cette réalité-là, eh bien, elle ne donne pas au gouvernement d'autres marges de manœuvre que de faire ce qu'il est possible de faire en direction de certaines catégories. Mais bien sûr, mais nous le disons depuis longtemps, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises et de faire face dans un pays qui est déjà et surendetté et surfiscalisé. C'est ça la réalité de notre pays et c'est sur quoi d'ailleurs nous devrons avoir l'an prochain un débat Comment on redresse ce pays?
Enfin, c'est quand même très décourageant ce que vous dites.
C'est pas décourageant. Je crois qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français. On ne peut pas faire comme si il ne se passait rien, comme
en fait,
si nous n'avions pas un budget totalement déséquilibré, comme
paye
si nous
aujourd'hui
n'avions pas un déficit
le budget,
de 5%.
On paye aujourd'hui les choix ou les non-choix qui ont été faits au moment du budget.
On paye aujourd'hui les non-choix depuis 10 ans. On paye le quoi qu'il en coûte. On paye un ensemble d'engagements où on n'a pas réduit la dépense publique. On n'a pas réformé l'État. Pardonnez-moi, c'est quelque part le bilan de deux quinquennats d'Emmanuel Macron. Je suis en train de vous décider.
Vous êtes en train de me dire que les deux quinquennats d'Emmanuel Macron ont laissé la France exsangue.
Elle laisse la France, en tous les cas, en hypoxie, comme diraient les vétérinaires, en manque d'oxygène.
Je rappelle évidemment que vous êtes vétérinaire. Gérard Larcher, le problème, c'est que ça, c'est du point de vue de l'État et effectivement des finances publiques. Quand vous prenez le point de vue de ceux qui, aujourd'hui, et j'ai eu plusieurs témoignages sur RMC ce matin, d'une personne qui travaille dans l'immobilier, dans la région de Troyes, dans l'Aube. Elle dit, moi, je roule 100 km par jour. Sauf que, voilà, j'ai deux enfants, que finalement, on gagne notre vie. Donc, on est au-dessus des 17 000 euros par an, mais pas suffisamment pour être aidé. Et le sentiment toujours que les aides, c'est pour les autres.
Écoutez, les aides qui ont été décidées sont pour un certain nombre de catégories qui contribuent à la production dans ce pays. Les agriculteurs,
les pêcheurs,
ceux qui sont transporteurs, ceux qui assurent, j'allais dire, le covoiturage, que ce soit taxi ou Uber, et puis les 3 millions, notamment de ceux qui ont des revenus à la fois modestes, mais qui sont particulièrement utiles. Je pense, parle beaucoup d'autonomie, toutes les aides à domicile, tout ceci. Alors bien sûr, pour les classes moyennes, ça n'est pas, j'allais dire, une bonne nouvelle, mais elles sont aussi celles qui contribuent à la fiscalité. Elles se rendent bien compte qu'on ne peut pas aller, vers plus de fiscalité. Donc,
mais
la réalité,
ils ont le sentiment de donner beaucoup et de recevoir très peu. Ceux qui
bossent. Voilà pourquoi il faudra bien qu'ils se posent la question. Demain, est-ce qu'on peut continuer dans l'augmentation de la dépense?
Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils devront en tirer les conséquences dans leur vote.
Bien sûr.
Au fond. Gérard Larcher, pourquoi les gens ne sont pas dans la rue? Je vous pose la question parce que, au fond, lorsque l'on regarde ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes, c'était un problème de carburant, c'est ce qui les a poussés sur les ronds-points. Comment est-ce que vous jugez le climat social aujourd'hui en France?
Je juge le climat social à l'aune du climat international. Il y a beaucoup d'angoisse, d'interrogation face à ce qui se passe au Moyen et au Proche-Orient. On en parle peu. Il reste, j'allais dire, la réalité de ce qui se passe en Ukraine, avec l'incroyable résilience des Ukrainiens face à l'agression russe. Tout ceci angoisse les Françaises et les Français. Je le vois dans les messages que je reçois. Vous l'entendez sur l'antenne. Moi, je reçois dans les lettres, dans les mails, dans les appels qui me sont faits. Qu'est-ce qu'on va devenir? Quelle perspective voyez-vous? Et ça, cette incertitude, quelque part, elle est un peu paralysante.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous estimez que les Français sont dans une forme de résignation, d'attente?
En tous les cas, d'attente inquiète.
D'attente inquiète. Gérard Larcher, dans ce contexte-là, vous le disiez, il va falloir trouver 6 milliards d'euros, 4 milliards qui sont demandés aux différents ministères, 2 à la Sécurité sociale, et on est déjà dans les débuts des préparatifs pour le budget 2027. Dans ce contexte-là, honnêtement, qu'est-ce qui peut en sortir?
D'abord, il y aura un autre rendez-vous en juin du comité d'alerte des finances publiques, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient projet de loi de finances. Et nous verrons, en fonction de l'évolution internationale, s'il n'y a pas d'autres nécessités de gel et de surgel.
Vous anticipez déjà que les 6 milliards ne seront pas assez.
Nous, au Sénat, en tous les cas, nous suivons ça avec beaucoup d'attention. Nous avions mis en garde le gouvernement. Vous savez que nous avions fait des propositions budgétaires qui allaient beaucoup plus loin dans la réduction des dépenses. Mais aujourd'hui, j'allais dire, on essaie de se sortir ensemble de cette difficulté. La préparation budgétaire 2027, nous l'avons déjà entamée. Et nous présenterons une proposition au gouvernement, les rapporteurs généraux, les présidents de commission, à la fin du mois de juin. Avec les trois hypothèses, il y a un accord politique et ça permet d'avoir un budget. On sait qu'en 2027, après l'élection présidentielle et l'élection législative qui suivra, il y aura sans doute un projet de loi de finances rectificative. Mais comment on fait pour cette période, pour faire face aussi à nos engagements? à nos engagements aussi militaires qui deviennent
une
priorité.
Et ça, pour le coup, vous estimez qu'il ne faut absolument pas toucher ?
Pas toucher, c'est indispensable. La deuxième des choses, si nous n'arrivons pas à un accord politique, est-ce qu'on passe par une loi spéciale et des services votés, mais qui, eux, j'allais dire, n'ouvrent pas de nouvelles capacités budgétaires, notamment, je reviens à la défense, mais il y a d'autres aspects aussi.
Est-ce qu'il y a un troisième scénario ?
Et le troisième scénario, ce serait de passer par ordonnance. Et je vous rappelle, le gouvernement peut, dans l'impossibilité, après 70 jours d'examen, décider que
ce serait
ordonnance.
Pas si mal, si je vous entends ?
Non.
C'est
sur la base du budget initial. Il faut regarder ces trois hypothèses.
En tout cas, vous n'en excluez aucune ?
Je n'en exclus aucune. Nous nous préparons aux trois hypothèses. Notre objectif au Sénat, c'est d'être utile au pays. D'apporter aux Françaises et aux Français un certain nombre de réponses, de perspectives, et d'essayer, quelque part, de réduire leur inquiétude pour qu'ils y voient au moins pour l'année prochaine un peu plus clair et qu'ensuite ils fassent leur choix.
Je suis quand même frappée, Gérard Larcher, dans ce que vous avez dit notamment sur les fameux 6 milliards. Vous laissez entendre qu'en réalité ces 6 milliards, alors bien sûr maintenant on nous dit que c'est parce qu'il y a la guerre et qu'il y a un impact. Mais je vois votre sourire et je le précise pour ceux qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas effectivement l'image en plus du son. Au fond, même s'il n'y avait pas eu la guerre... Vous laissez entendre que il manquait de toute façon des milliards. Il aurait manqué des milliards.
Il manquait de réduction de la dépense publique.
Mais en effet, pour revenir, qu'il y avait une insincérité, pardon.
Non, mais non, puisque
ou un optimisme exagéré.
On a pas tenu notre parole.
Alors, je vais vous dire la chose dans l'autre sens. Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'optimisme naïf?
Pas d'optimisme naïf, d'optimisme d'opportunité pour tenter d'avoir un accord avec le Parti Socialiste.
Voilà.
Mais on n'a pas dit totalement la vérité aux Français.
On n'a pas dit la vérité aux Français.
Totalement. On a eu des débats, nous l'avons dit.
Est-ce que ça veut dire que les 6 milliards qui sont aujourd'hui justifiés par la guerre...
Écoutez... On réécrit pas l'histoire. Nous avions proposé d'avoir une trajectoire qui nous amène non pas à 5, mais à 4-8. Regardez où sont les différences du déficit.
Donc en fait, c'était écrit.
Pour nous, c'est en tous les cas, au-delà des événements, une trajectoire qu'il va falloir reprendre en 2027. Je vous rappelle qu'on s'est engagé au plan européen à être à 3% de déficit en 2029. C'est quasiment intenable si on ne fait pas des efforts colossaux. Diminution de la dépense publique, je reviens là-dessus. On n'a plus de levier de fiscalité, on est déjà médaille d'or.
Le RN demande notamment un projet de loi rectificatif, alors notamment pour pouvoir faire baisser la TVA sur les carburants, mais est-ce qu'un projet de loi rectificatif
le RN paraît... doit faire preuve de responsabilité, baisser la TVA, la passer de 20 à 5,5 comme ils le disent. Allez, c'est entre 12 et 17 milliards de conséquences budgétaires. Voyons où on en est, rien que ça. Quand j'entends aussi les films parler
de
blocage, ben là c'est la garantie de la pénurie et des kilomètres. De kilomètres de queue pour aller à la station-service. Non, il faut être responsable. Il faut qu'on réfléchisse. Et à mon avis, il y a un travail de fond à engager à nouveau vraiment sur la place, pardonnez-moi, de l'électricité par rapport aux énergies fossiles et au gaz.
Et donc cette planification.
Et cette planification, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait des certificats d'économie d'énergie? Mais ça nécessite une réflexion. Faut pas
ça,
le faire.
C'est ce que demandent les distributeurs. Les distributeurs demandent à repousser ce moment où ils doivent...
Ça mérite un débat. Oui, c'est un décret. Mais ça mérite un débat.
Sur l'économie, tiens, vous trouvez que le RN, vous venez de dire, je les appelle à la responsabilité, le fait qu'ils aient eu ces échanges avec le MEDEF, vous trouvez que c'est bien, c'est pas bien, c'est normal?
C'est une formation politique, ils ont des parlementaires, ils dialoguent avec les acteurs économiques. J'espère que ils ont un côté pile et un côté face. Ils ont un côté pile où ils disent, mais on est pour la libre entreprise, et le côté face, ils nous ont mis 30 milliards de taxes en proposition l'an dernier en plus. Et ils ont soutenu la suspension de la réforme des retraites avec les conséquences financières qu'on connaît.
Philippe Juvin, qui est rapporteur du budget, évoque, lui, une quinzaine de milliards d'euros à trouver. Est-ce que vous pensez que c'est à peu près ça ?
En tous les cas, c'est un dialogue qui est entamé entre nos deux rapporteurs généraux. Il est le rapporteur général de l'Assemblée nationale. Jean-François Husson est le rapporteur général du budget du financement de l'État, de la prochaine loi de finances. au Sénat. Ce sera dans ce dialogue-là. Il nous faut rechercher les formes d'optimisation budgétaire.
La voix de la France dans le monde, dans ce contexte, avec des négociations à venir, notamment Liban, Israël, et peut-être, effectivement, puisque l'ultimatum a été repoussé, mais le blocus maintenu, à nouveau entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que vous estimez que la France est à la juste place ?
Non, nous n'existons pas aujourd'hui, notamment dans le conflit du Moyen-Orient. En fait, il y a deux acteurs, les États-Unis et Israël. Un acteur un peu lointain, la Chine, et puis il y a les pays du Golfe qui subissent et qui se défendent. On a la particularité, en plus d'un blocus, c'est un cas unique dans l'histoire des blocus maritimes, il y a deux pays qui se font face et qui font blocus tous les deux. Je le dis presque avec un point d'exclamation. Mais notre place au Proche-Orient m'apparaît essentielle. Nous avons perdu une partie de notre place, nous devons la retrouver. Nous devons la retrouver. J'ai d'abord une pensée parce qu'il y a un homme qui est mort, le sergent-chef Montorio, la semaine dernière, pour défendre la paix. Il appartenait à nos forces armées. Je veux vraiment avoir une pensée, parce que c'est l'engagement de la France. Et demain, pour le Liban, nous devons continuer à être présents pour soutenir l'armée libanaise. Parce qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus de dispositif Finul. Et il faut mettre en place un autre dispositif à la frontière Israël et Liban. Et la France doit y être présente.
On doit rester présent.
On doit être. C'est indispensable présent. Nous avons la chance d'avoir un président de la République libanaise et un premier ministre libanais, deux hommes d'exception. Et je dois dire que plus que jamais, c'est notre devoir. Il se trouve qu'Israël ne veut pas nous voir sur cette scène. Et sur, pour la première fois depuis 1993, nous ne serons pas dans les discussions à Washington, notamment entre Israël et Liban. Ça me pose problème, mais il ne faut pas baisser les bras vis-à-vis de Liban. C'est vraiment, j'allais dire, quelque part, c'est on a une fraternité.
C'est un moment où l'on doit être à leur côté.
Oui.
Gérard Larcher, je ne sais plus comment distinguer les uns les autres à droite. Il y a de plus en plus de candidats. Alors, il y en a un officiel désormais, c'est Bruno Retailleau. Mais quand on regarde, il y a David Lisnard qui a dit qu'il y allait. Il y a Michel Barnier qui, il y a trois jours, disait, bon, en gros, je suis prêt. Vous rajoutez à ça Gabriel Attal, François Hollande. Je ne sais plus m'y retrouver. Quel est votre candidat ? Est-ce que Bruno Retailleau, aujourd'hui c'est officiel, est pour vous le candidat de la droite ?
Il est le candidat des Républicains. Il a été choisi très clairement, avec 74% de l'expression des adhérents. J'ai fait partie du groupe de travail qui a fait la proposition des alternatives à la désignation. Il est donc notre candidat. Et je souhaite qu'il soit demain le candidat de la droite et du centre.
Avec, devant, Édouard Philippe ?
Écoutez, chacun va tracer sa route, et puis nous verrons à l'automne, en fonction des projets. Aujourd'hui, Bruno Retailleau, il doit présenter son projet, il doit, j'allais dire, quelque part faire mouvement.
Mais ça veut dire quoi, faire mouvement ?
Ben, faire mouvement, c'est de se faire connaître des Françaises et des Français encore plus, faire connaître son projet, et puis nous verrons la
fin
de l'automne.
Mais vous, vous y croyez, c'est-à-dire, vous dites, c'est un bon candidat pour nous, pour la famille de la droite.
C'est mon candidat.
C'est votre candidat.
Mais bien sûr, c'est mon candidat parce qu'en plus, il a été choisi. Il a été choisi conformément à nos statuts par nos adhérents.
Il avait déjà été choisi comme président
mais
du parti.
Pas la même chose.
Mais là, honnêtement, on peut pas non plus dire qu'il y avait une élection hyper ouverte avec plein de candidats.
Mais non, mais chacun a pu se présenter.
Oui.
Nous avons auditionné tout le monde qu'il avait souhaité. Et donc, en auditionnant tout le monde, il y avait un choix. Le choix a été des adhérents, très largement, le choix de faire que le président soit le candidat qui nous représente.
C'est quoi aujourd'hui votre droite ?
Ah, ma droite, c'est une droite très claire. Elle va du centre à la droite républicaine. Elle exclut tous les extrêmes. Elle exclut l'extrême gauche et la gauche. C'est cela. Et c'est là où le gaulliste que je demeure se retrouve.
Gérard Larcher, le Sénat, il est très largement indexé aussi sur les élections municipales, puisque ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire ceux qui sortent notamment de ces élections-là, qui sont ensuite ceux qui choisissent les sénateurs au moment du renouvellement. Quel regard vous avez porté sur ces élections municipales ?
Nous les avons, j'allais dire, la droite et le centre remportés. On s'est plutôt conforté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici ou là quelques avancées, notamment sur la droite extrême et ses alliés. Nous devrions avoir une stabilité dans la perspective
du prochain renouvellement.
Du renouvellement de la fin septembre prochain, qui sera un élément de stabilité. Nous sommes aujourd'hui à peu près la seule institution stable dans notre pays. C'est quelque chose d'essentiel. Donc voilà.
Mais ça veut dire que vous anticipez de maintenir une majorité de droite au Sénat ?
De centre et de droite, oui. Parce que c'est ça la particularité. Ce que Michel Barnier a appelé le socle commun continue à exister au Sénat.
Est-ce que vous considérez que vous pouvez continuer à travailler avec le Parti Socialiste ? Est-ce qu'il y a une sorte, vous parlez d'un socle commun, est-ce qu'il y a une sorte de majorité centrale, commune, qui pourrait être renouvelée ?
Écoutez, le Parti Socialiste appartient à l'opposition au Sénat. C'est vrai qu'on dialogue. Nous ne sommes pas
vous
dans une
guerre. Vous revendiquez régulièrement d'avoir un dialogue dans une plus constructif, plus respectueux.
Mais il y a une majorité sénatoriale. Et cette majorité sénatoriale, elle est claire. Je crois qu'on a besoin de clarté politique. Et que la clarté politique, c'est sans doute la demande essentielle pour qu'en 2027, nous opérions une forme de rupture. On a cru en même temps. Ben non, je vous dis.
On revient aujourd'hui pour vous.
Il faut revenir à la clarté politique pour que nos compatriotes puissent choisir.
Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes le président du Sénat. Il est 8h46 sur RMC et BFM TV. Ne bougez pas sur RMC. Dans un instant, on va rire avec Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Souvenez-vous, Bruno Retailleau était mon invité dans le face-à-face et il était resté face à Canteloup.
Bonjour, Bruno Retailleau.
Bonjour.
Il est resté pour Nicolas Canteloup. Laurent Wauquiez, tiens, voulait réagir à cette interview.
Bonjour, Apolline. Oui, c'est moi, ton chouchou, ton préféré, ton homme, ton mâle, ta bête. Apolline, comme ça fait un petit moment que tu ne m'as pas invité et qu'en plus c'est bientôt ton anniversaire, je t'ai apporté un petit cadeau.
Ah, oh, dis donc, habit rouge, pourquoi donc ? Merci, c'est du parfum, c'est gentil.
Non,
monsieur.
C'est pas du parfum, c'est plus précieux que ça. C'est du samplon 95. J'ai pas les dîners, 50 millilitres.
Wow.
Je suis allé chercher jusque dans le détroit d'Ormuz.
Oh là là, c'est trop bon.
Il y a que là qu'on en trouve, c'est un passeur qui m'a introduit, j'ai pris tous les risques pour toi.
Merci.
Bref, parlons maintenant de Bruno. Celui que j'appelle mon grand ami Bruno. Donc c'est aussi l'anniversaire. Si, si, Bruno. C'est ton 305e jour en tant que président des Républicains. Je peux te dire que j'ai tous compté. Mais ça, tu le savais déjà qu'avec moi, t'es toujours été compté. Hein, mon Bruno ?
Merci, monsieur le Bouquet. Marine Le Pen souhaitait nous rejoindre.
Non mais arrêtez, c'est ridicule. Arrêtez cette musique, arrêtez, j'ai pas le cœur à ça.
Bah pourquoi ? Bah le Rassemblement National a remporté les élections municipales dans une 60aine de villes. On vous aurait cru plus enthousiaste.
Oui, c'est un raz-de-marée. Victoire à Vierzon. Oh là là, toutes les chaînes infos sont en boucle. Hein, on parle que de ça. Victoire à Liévin, victoire à Yange. Non, quel résultat ? On est champion sur les villes de 1200 habitants. Non mais franchement, vous croyez que je vais saluer et sauter de joie parce que le RN va diriger Montargis, Péménade et brûler la Buchière.
Hein à Nice, c'est quand même Éric Ciotti, votre allié qui l'emporte.
Oui, mais écoutez, Ciotti. Arrêtez avec Ciotti. Bon, parlons-en, Ciotti. Un vieux chauve de droite qui prend une ville peuplée depuis le 14e siècle, hein, par qui ? Par des vieux chauves de droite. Tu parles d'une performance.
On part à Nice où on retrouve le vainqueur. Donc, bonjour Éric Ciotti.
Mes amis, mais c'est les banderoles. Non mais arrêtez, il y a une fluide de confetti. C'est le carnaval, on ne me voit plus. Nous avons, mes amis, conquis la mairie de Nice. Grâce à vous, vous êtes des millions et des millions. Oui, bon, j'ai pas un chiffre exact. Des millions à nous avoir soutenus. Nice outragé, Nice martyrisé, mais Nice libéré.
Anne Hidalgo, quel plaisir de céder votre fauteuil de maire de Paris. Merci de répondre à nos questions. J'imagine qu'il y a une certaine émotion. Hein.
Oui, surtout quand je pense à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens à qui je vais, vous le savez, beaucoup manquer.
C'est pas sûr ça quand même.
Mais si, évidemment, je vais leur manquer. Sans moi, comment dire à votre employeur, comment se justifier que vous êtes arrivé en retard à cause des bouchons?
Ah oui.
Sans moi, comment dire à votre belle-mère que vous devez partir à cause du stationnement à 12 euros de l'heure?
Ah bah oui.
Ou encore, comment dire à votre conjoint que c'est à cause de la taxe foncière si vous n'avez pas pu acheter un cadeau d'anniversaire? Voilà. Voyez, c'est à ça qu'on reconnaît un bon bilan de mère. C'est quand on réussit comme ça à impacter durablement la vie de ses administrés.
Merci Anne Hidalgo. Christian Estrosi a annoncé se retirer de la vie politique après avoir perdu son fauteuil de maire. On réécoute sa déclaration.
Je voudrais m'adresser aux Niçoises et aux Niçois dont je ne me suis jamais senti aussi proche puisque je suis désormais moi aussi à la retraite.
Ah oui.
Merci aux Niçoises et aux Niçois de m'avoir montré le chemin de la chaisesse et de mon canapé. Je vous dis au revoir. Je vais désormais me consacrer à ma famille et m'occuper de mes enfants, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Pour leur éviter d'être décapité comme papa.
Oh non. Merci Monsieur Estrosi. Eric Ciotti l'a donc emporté à Nice. Hein.
Mes amis, oui, aujourd'hui est un grand jour pour
oui,
Nice.
Oui, on le sait, vous avez gagné la mairie.
Non, mais c'est surtout que Christian Estrosi a quitté la vie politique.
Ah, oui.
Ça confirme que c'était un gauchiste. Il fait exactement comme Lionel Jospin, une branlée face à l'extrême droite et il part en chialant. Oh. Mais exactement comme le vieux frisoté de l'île de Ré. Non, soyons dignes. Oui, et réplique. Oui, une coiffure assez atypique.
Oui,
j'ai voulu m'en inspirer, mais...
Ah oui, ça n'a pas marché.
Alors.
Bon, allez, soyez digne et républicain, comme vous disiez.
Tu es parti, Christian. Toi, le maire de la baie des Anges, parti trop tôt, trop tard, ou pas assez tôt, enfin bon. Tous les honneurs républicains te seront rendus puisque tu seras inhumé à Nice la nuit prochaine dans la fosse commune du cimetière Dick Rivers. J'ai également décidé de rebaptiser un lieu emblématique de notre ville en ta mémoire, oui, cher Christian Estrosi, comme nous l'avions fait avec l'avenue Jacques Médecin. Je vous annonce donc l'inauguration prochaine de la déchetterie Christian Estrosi. Et de manière concomitante, la promenade des Anglais sera rebaptisée promenade Éric Ciotti.
Ah oui.
Vu comme je me suis baladé face à Estrosi, 10 points dans sa gueule à Portinet.
Merci Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules à partir de 9h avec autour de la table Antoine Dierre, ce consultant de Dunkerque, Zora Bitant, la fonctionnaire, et l'éducateur Abel Boyi. Puis nous recevrons face aux GG le chroniqueur télé Mathieu Delormeau qui vient nous raconter comment il essaye de s'en sortir face à ses addictions, face à la drogue qui a failli lui coûter la vie. Donc rendez-vous dans un instant avec les GG sur RMC, RMC Story.